Bon midi tout le monde, bienvenue à l'émission Langeaise sur les ondes de Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV. Le caucus Iacarini qui s'en vient. Hey, on a 5 sujets dans le caucus Iacarini aujourd'hui, je pense que c'est un record. Ça va être malade, ça va rouler, ça va débouler. S'en passe-tu des affaires en politique en taux?
Hey, comment... C'est quasiment trop.
Ah non, il y a de la chicane.
Moi, je veux te dire, c'est trop.
Ben, c'est parce qu'on finit par pas pouvoir aborder certains de ces sujets-là qui sont super importants. Puis en plus, Jeff, il veut juste qu'on parle des sujets là, de chicane. Là. Fait que, désolé, vous serez pas au courant des nouvelles lois qui seront adoptées.
Puis c'est mon excuse. Ils volent notre temps. Mais c'est un peu l'image que ça donne aussi, là, la politique actuellement. Ils volent notre temps avec des détails. Les politiciens, ça s'obstine, ça chicane. Il y a des choses sur lesquelles on pourrait accélérer un petit peu la recette. Puis parler justement de toutes ces
projets. C'est le choix des médias aussi. Là,
c'est un choix.
Mais je fais des blagues parce que je pense qu'on offre le bon équilibre entre s'amuser un peu avec les affaires plus croustillantes, mais être constructif puis essayer de vous informer le mieux possible sur ce que les élus font là, avec votre argent. Là. On essaie d'être constructif ici. Là.
Mais il se passe bien des affaires. C'est juste ça. Là. En arrière de Pablo Rodriguez, il y en a qui en profitent pour faire avancer des dossiers puis que
c'est
ça
clair.
Crie pas trop fort.
Ouais. Mais là, il y a des dossiers qui reviennent à la surface parce qu'il y a notre roi élu. PSPP, le grand porteur de la souveraineté, qui parle aux gens et qui leur dit quoi faire. On va leur revenir tantôt. Pascal CV, comment ça va?
Ça va très bien. J'espère que toi aussi.
Mais, hein? Hey, moi, c'est jeudi, hein? Je suis en congé demain. Mais
c'est ça que j'allais dire, parce que c'est ta petite dernière,
ben
mon
oui.
Jeff, en tournoi avec
à
ton fils demain.
À Davelouville.
Ça, je ne savais même pas c'était où, Davelouville.
Oh, c'est, il y a un resto, 3 dépanneurs qu'un auditeur m'a écrit un matin.
Puis dans le fond, tout est dans un dépanneur. Le resto
ouais,
est dans le dépanneur.
C'est ça. Fait qu'on va aller manger à Victoriaville.
Il y a plus de choix un petit peu.
Un petit peu plus de choix. Écoute, on joue à 10h20 demain matin, puis après ça, à 7h30 demain soir.
OK, donc on a le temps de se reposer un peu pour les gars.
Exactement. On va essayer de trouver
visiter.
Une petite activité.
J'ai le goût de faire un petit clin d'œil puisque tu vas prendre
ben
la route. Puis cette année, on a besoin de beaucoup de lave-glace.
Oui.
Aparté de petites affaires que je vis au quotidien. Moi, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, toutes ces affaires-là. Mais soudainement, il y a 4-5 jours, mon liquide lave-glace ne sortait plus. OK?
OK.
Tu dis, t'es bouché?
Même pas. Fait que là, premier réflexe, tu regardes, il en manque-tu? Non. Est-ce que mes petits trous qui splouchent le lave-glace sur mon pare-brise sont bloqués? Non. Est-ce que j'entends la pompe? Oui. Étrange. Alors,
okay. Que se passe-t-il?
Que se passe-t-il? Ouvre le capot de ma voiture, non pas pour y faire des mamours comme certains au palais de justice aujourd'hui,
exactement.
Mais pour vérifier qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il un tuyau qui est slack, ça coule-tu à terre? Peu importe. Toutes les petites vérifications normales qu'on peut faire. Sachez, mesdames et messieurs, que c'est la première fois que je me la faisais faire, celle-là. On a lubrifié le mauvais trou.
OK.
Alors, quand tu veux faire un anti-rouille à quelque part...
Je me retiens de faire 1 million de blagues présentement.
Oui, moi aussi.
Tu sais que c'était choisi. Mm-hmm. Je travaille avec Yannick Marceau dans le temps. Alors, lubrification du mauvais trou par ceux qui m'ont fait de l'anti-rouille sur ma voiture.
Ouais.
Ce qui a fait en sorte qu'il y a eu plein d'anti-rouille qui est rentré dans le trou. Ça a fait sortir le tuyau. Ça a pris 3 garages. Pour comprendre c'était
pour
quoi l'histoire.
Le problème.
Puis ça a l'air d'un détail, mais tu peux pas vivre sans liquide lave-glace.
Aujourd'hui, là?
Non, tu, ben, après 2 minutes, là, t'es dangereux. Là.
Ça fait 3 jours que j'ai un chiffon microfibre dans mon char en attendant mon rendez-vous au garage.
C'est quand ton rendez-vous?
Ben, il a été fait ce matin, heureusement.
Cool.
Fait que le chiffon microfibre, il a fallu que j'ouvre pendant qu'on était sur l'autoroute à plusieurs reprises, donc à manger de la gadoue de l'autoroute puis du bain de gros sable dans mes dents pour nettoyer. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui fait de l'anti-rouille puis qui travaille pas en cochon, clin d'œil, faites-moi signe.
Ouais, c'est ça. Faites signe à Pascal CV. Elle a besoin d'aide. 418-971-101, si jamais vous voulez nous raconter vos histoires drôles de char.
Après c'est la journée pour ça.
Après le caucus, on regardera ça. 418-971-101, si vous voulez réagir au caucus, parce qu'on va parler de chicane en politique. Et on start ça tout de suite.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iacarini.
Anto, je m'ennuie.
Anto travaille pas en cochon, elle.
Non.
J'essaye de pas.
M'ennuyais, moi. M'ennuyais d'une bonne vieille chicane médecin-gouvernement. Faisait longtemps. Faisait 2 semaines qu'il était en harmonie. Christian était parti en Floride se faire dehors à Gwen. France-Hélène Duranceau, la coach. D'ailleurs, on a retrouvé l'extrait du coaching qu'on va faire jouer tout à l'heure. La coach était là. François Legault s'était assis avec le docteur Marc-André Amiot, le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. On avait montré ces belles images-là à TV. Tout le monde gambadait vers Noël, main dans la main. On va se faire un petit cadeau de nouvelle entente.
J'étais pas si optimiste que toi.
Non!
Mais j'apprécie ton optimisme.
Bien là, c'est pas arrivé. Et Mario Dumont a appelé ça le show des médecins. Écoute bien Marc-André Amiot, comment il n'était pas content quand il était interviewé par Mario Dumont.
Je vous écoutais, le show des docteurs a été suffisamment gros. Je vous rassure, M. Dumont, c'est pas un show de docteur, cette affaire-là. C'est vraiment une situation vraiment catastrophique pour les patients et pour les Québécois. Là. Ça n'a pas de bon sens que cette loi-là s'applique. Nous, on était à la table de bonne foi. Et ce qu'on se rend compte, là, la volonté du gouvernement, c'était de nous faire entériner cette loi-là. C'était de nous dire, la loi-là, elle est importante, elle va rester là, on veut que vous l'endossiez. Et par la suite, là, on va regarder comment elle va s'appliquer. Non, ça ne peut pas fonctionner, cette loi-là.
Et il a rajouté que ça ne peut pas fonctionner avec des pénalités pour les médecins. Donc, il a dit, on s'en va à la catastrophe, on va fermer des cliniques. Les médecins de l'Outaouais s'en vont à Ottawa. Et c'est fané, le système au Québec.
Mais d'ailleurs, tantôt, on disait qu'il y a des sujets croustillants qui prennent beaucoup de place. Bien, ça prend notamment la place de ces histoires-là, parce que ça a continué hein, dans les derniers jours, même si on en parle moins, des cliniques qui ferment. Encore hier, on parlait de médecins qui pratiquent en CHSLD, qui ne seraient plus disponibles. Bref, ça n'a pas disparu, là, parce qu'on a arrêté d'en parler. Écoute, c'est une vraie impasse.
Vraiment?
Parce que le gouvernement ne va pas retirer son projet de loi.
Non.
Ça n'arrivera pas. C'est suicidaire politiquement. Et les médecins refusent de parler de l'application. Ils veulent que le projet de loi lui-même soit retiré et qu'on retourne en table de négociation sur des nouvelles bases. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, on est dans des intérêts complètement contraires.
Exactement.
Ici, là.
Et là, le docteur Amiot, par contre, a dit à l'émission de Mario Dumont, on avait démontré une ouverture pour qu'un projet de loi, mais voici ce que le gouvernement a refusé de faire.
Non, on réclamait des adaptations majeures, des adaptations nécessaires. Mais on avait des propositions à la table de négociation. Il y avait des propositions intéressantes. Jamais à la table de négociation, le gouvernement s'est engagé à garantir les ressources qu'il nous promet en GMF.
On y va toujours avec si c'est vrai, parce que c'est les paroles du docteur Amiot, qui, on le rappelle, est le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, donc les médecins de famille. Mais si c'est vrai que le gouvernement, tu lui dit adaptation majeure, puis par adaptation majeure, il l'explique un peu plus tard, c'était on voulait pas de quantitatif, on voulait du qualitatif. Bon, déjà là, c'est tough pour le gouvernement d'avaler ça. Sauf que, tu sais, depuis le début qu'on le mentionne, il faut que le gouvernement fasse son bout aussi. Tu peux pas dire aux médecins, pogne 1000 patients de plus, mais t'as pas de ressources additionnelles. Là.
Non, puis, tu sais, au-delà du fond des choses, on va se rappeler que le projet de loi qui imposait des conditions de travail, de rémunération aux médecins a été adopté sous Bâillon.
Oui.
À la va-vite.
À la presse.
À la presse. Et après, on s'est rendu compte qu'il y avait un paquet de choses qui fonctionnaient pas. Et il faut rappeler le contexte dans lequel ce projet de loi-là a passé, c'est que les moyens de pression des médecins menaçaient la diplomation des nouveaux médecins, des étudiants en médecine.
En effet.
Donc là, ça pressait donc. Sauf que, à un moment donné, tu te ramasses en bâillon et là, tu te rends compte que ce projet de loi-là est un paquet de choses qu'on n'avait jamais vu passer.
Non.
Donc, évidemment, déjà, les médecins avaient tous déchiré leur chemise et leur sarrau avant même le dépôt du projet de loi parce que c'était dans l'air depuis longtemps. Le ministre avait déposé un projet de loi depuis des mois déjà. Mais là, évidemment, dans la manière dont le gouvernement s'y est prise, ça a complètement brûlé les ponts avec les médecins. Et là, on pensait que peut-être avec France-Hélène Duranceau, présidente du Conseil du Trésor, et le premier ministre, on tassait en quelque sorte
Christian Dubé
des négociations. Parce qu'on avait aussi appris dans les dernières semaines qu'on était très, très proche d'une entente avec les médecins spécialistes à la fin de l'été. Et que ce serait, selon les dires des gens qui en ont témoigné, Christian Dubé qui avait fait tout dérailler parce qu'il trouvait que ça n'allait pas assez loin, cette entente-là. On voulait vraiment remettre en question la rémunération et mettre des cibles de performance qui sont liées à la rémunération. Puis ce que les médecins auraient voulu, c'est que les indicateurs de performance soient liés à des bonus, à de l'argent supplémentaire. Alors que là, si tu les remplis pas, tu perds de l'argent.
Salaire, c'est ça. Donc, d'où la pénalité là, mentionnée par le docteur Amiot. Je te pose la question, puis je veux pas qu'on s'éternise sur le sujet, mais c'était quoi finalement la moins pire des solutions? C'était la loi 2 ou qu'on n'ait pas réussi à avoir d'entente avec les médecins puis qu'on continue encore une année comme on était?
Bien, en tout cas, l'omelette qu'on est en train de faire, on brise pas mal d'œufs là, pour la cuisiner présentement. T'sais, moi, je pense que l'erreur, ça a été de précipiter le projet de loi parce que les Québécois étaient derrière l'idée. Et c'est sûr que pas beaucoup de monde qui pleurait sur le salaire là, des médecins.
Non, non, non. Puis je pense que la très grande majorité de la population, je pense, je suis convaincu que la très grande majorité de la population, au départ, appuyait le gouvernement dans sa bataille avec les médecins pour changer le mode de rémunération pour que, justement, l'accessibilité soit plus présente, que ce soit à des chirurgies ou à un médecin de famille. Sauf que là, avec la façon de faire du gouvernement, on va empirer la situation.
C'est ça. Puis on est capable d'accepter, je pense, d'avoir un moment de perturbation.
Oui.
Puis d'empirer momentanément pour que ça aille mieux après. Mais c'est un peu dur de le voir en ce moment. Les médecins sont très, très convaincus de leur mobilisation. Puis ils ont un pouvoir important là, dans la société. Là.
Ah oui.
Je veux dire, c'est dur de se passer de médecin et de voir les listes d'attente en chirurgie qui risquent d'augmenter. Tu te dis, là, vraiment, on a mal fait les choses. Mais en même temps, je pense que les gens savaient que le statu quo était plus possible. Mais est-ce qu'on était à 2 semaines près de faire un projet de loi peut-être un peu mieux ficelé?
Ouais, puis est-ce, la qu'on question, était, est-ce qu'on voulait un pire statut?
Ben, moi, c'est pas compliqué. Si t'es capable de me prouver que ça va aller mieux après, tu sais, je reviens toujours à ma métaphore de divorcer. C'est pas drôle, divorcer, là. Mais, je veux dire, après ça, ça va être mieux. Mais il va y avoir une année où les choses, ça va être un peu plate. Mais après ça, t'as de la lumière au bout du tunnel. Là, on a l'impression que les impacts vont durer pendant vraiment longtemps. Et politiquement aussi, on voit un gouvernement qui est en difficulté, qui se cherche des points politiques à faire. Donc, on est toujours un peu sceptique. Est-ce qu'ils font les choses vraiment pour le bien de faire la chose ou est-ce que c'était populaire? Il y avait des sondages qui le justifiaient.
Essayer de remonter dans les sondages, mais on est bloqué à 18%. Deuxième chicane, Constitution du Québec. Est-ce que Ruba Gazal a raison?
Le droit à l'avortement. Martine Biron, elle voulait faire ça il y a 2 ans. Elle est sortie en disant, moi, je veux légiférer sur le droit à l'avortement parce qu'il y a un consensus au Québec sur la protection du droit à l'avortement. Et elle a été convaincue, à force de parler avec des groupes de défense des droits des femmes, des législateurs comme le Barreau du Québec, des médecins, elle a écouté et elle a été convaincue que ce n'est pas une bonne idée parce qu'on donne une perche aux groupes anti-avortement. C'est tellement paternaliste que Simon-Jolin Barrette, après ça, défasse la décision de sa collègue. C'est tellement paternaliste. Pour qui il se prend pour faire ça?
Pour qui il se prend, Simon-Jolin Barrette?
Hey Jeff, l'heure est grave.
Oui, l'heure est grave. C'est vrai, faudrait que j'aille le rechercher. Paternaliste, c'est les termes, là, Québec solidaire.
Mais l'heure est grave parce que je suis d'accord avec Ruba Gazal et ça n'arrive pas si souvent, mais je suis absolument d'accord avec elle. C'est pas une bonne idée. Tous les groupes sont venus le dire à Martine Biron quand elle était ministre de la Condition féminine. Ça venait d'une bonne intention. On se dit, on veut protéger le droit à l'avortement. On voit qu'ailleurs dans le monde, on a des droits qui reculent. Il y a les États-Unis, il y a les masculinistes. Il se passe plein d'affaires. Donc, on va protéger le droit à l'avortement. Une belle intention, mais qui va donner des mauvais résultats. Parce que si tu mets l'avortement dans une loi, ça se fait et ça se défait. Puis là, on dit, oui, mais là, c'est la loi des lois, c'est la Constitution. Ouais, mais tu peux amender une Constitution pareille. Sinon, je veux dire, à un moment donné, c'est celui qui l'a fait, la Constitution. Que... Tu sais, si elle peut pas s'amender, la Constitution, c'est trop fou.
Ben, c'est parce que sinon, on devient dans un régime monarchique. Là.
Et voilà.
Je vous fais la loi.
Et je rappelle quand même qu'on n'est pas un pays. Là. Fait que, là, c'est la Cour suprême du Canada qui a le dernier mot. Et le jugement de la Cour suprême sur le droit à l'avortement, il a eu lieu dans les années 80 dans l'affaire de Chantal Daigle. Et c'est ce jugement-là qui protège les femmes depuis ce temps-là.
Hey, je me souviens de ce débat-là, justement.
On la remercie. En tant que femme, je remercie Chantal Daigle parce que son chum voulait l'empêcher de se faire avorter. Et son argument, c'était que le bébé à l'intérieur d'elle lui appartenait aussi. Donc, c'était aussi sa décision. Ça s'est rendu jusqu'à la Cour suprême. Et on a statué que non, c'est le choix de la femme. Et tant que c'est à l'intérieur de toi, c'est pas une personne légale.
Soit dit en passant, si jamais vous allez voir des archives là-dessus, son chum, j'avais toujours été impressionné par son pinch.
Ouais, mais c'était un personnage
ouais,
fort désagréable.
Ouais, ouais, c'était, je dirais, à la limite du contrôlant. Là.
Oui, oui, oui. Puis il y a une bonne série là-dessus, vous irez l'écouter. Cela dit, ce jugement-là, on ne peut pas le défaire. C'est un jugement de la Cour suprême, mm-hmm. ça ne se défait pas. Une loi, ça se défait.
C'est ça. Donc, la jurisprudence a bien séance sur la loi constitutionnelle.
Oui, puis une loi, ça se conteste aussi.
Oui, mais pourquoi il s'entête de même, Simon-Jolin Barrette? Quand même? C'est un juriste, un gars intelligent. Pourquoi il continue à s'entêter? J'ai écouté encore une entrevue qu'il a donnée hier. Non, mais l'éton va être là pour protéger les femmes. On va être main dans la main avec les femmes.
Ce matin, c'était une autre entrevue. Il dit encore la même chose.
C'est ça. Bien, là, c'est là qu'on arrive au paternalisme de Ruba Gazal. Moi, je trouve pas ça paternaliste. Je veux pas genrer la chose. Là. C'est sûr que ça tombe que c'est un homme, mais ça n'a pas rapport avec ça. En fait, c'est qu'il est convaincu que sa façon de faire va fonctionner. Mais on n'a pas le temps de jouer, là, Simon. Là. On veut pas jouer à ton jeu. Tu sais, je veux dire, on est déjà protégé par le jugement. Ce que le gouvernement du Québec peut faire pour protéger l'avortement, c'est d'assurer l'accès à l'avortement, comme des soins de santé. Mm-hmm. On a un petit peu de misère avec nos soins de santé ces temps-ci. Ça, c'est une bonne priorité. Il y a quelques années, Gaétan Barrette avait légiféré aussi pour empêcher les manifestations trop proches des cliniques d'avortement. Parce qu'imaginez déjà, t'es une petite fille de 16 ans, t'es déjà toute mal
puis
avec
là,
ça.
Puis là, t'as les pro-vie qui sont là.
Qui te montrent des photos de bébé
ouais,
à deux pouces
de ta face.
Qui te
montrent des photos de bébé, mais toi, le bébé qui t'entre dans toi, c'est ton père qui a fait de l'inceste.
C'est genre, là. Puis de toute façon, ça appartient à chacun. Donc, ça, c'est un des aspects dans la Constitution, le projet de Constitution de Simon-Jolin Barrette, qui pose problème, mais ça en est un parmi plusieurs. Ça, c'est le plus clair et net et précis. Mais il y a aussi Alexandre Cloutier, ancien ministre péquiste, qui est maintenant président du Réseau des universités du Québec, qui s'est dit inquiet de la limitation de pouvoir contester des lois qui, et là j'ouvre les guillemets, protègent la nation québécoise. Donc, on vient limiter le droit de contester certaines lois. C'est quoi une loi qui protège la nation? Ben, j'imagine langue française. Là, donc, trouve que ça va beaucoup trop loin et pourrait limiter la liberté universitaire, par exemple. Lui, c'est sûr qu'il représente mm-hmm. les universités.
T'en penses quoi, toi, de ça? Parce que, tu sais, moi, je suis pas contre qu'on protège des décisions propres à notre nation québécoise. Tu sais, moi, là, vous savez comment je suis un pro-laïcité. Ben, j'aime ça qu'on la protège, la loi sur la laïcité, pour pas que j'ai un
Justin Trudeau. Je comprends, moi aussi j'aime ça, la loi sur la laïcité. Mais si un parti politique se fait élire à majorité en disant « moi, je vais défaire la loi sur la laïcité », je veux dire « moi, je vais respecter la volonté des Québécois ».
T'as raison, tu m'amènes ailleurs dans ma réflexion.
C'est sûr que s'il y a des partis politiques qui veulent faire reculer les droits de l'égalité homme-femme, puis les droits, mais tout ça fait l'objet de débats politiques et d'élections. Après ça, j'ai un problème quand le fédéral vient dire à l'Assemblée nationale « Non, tu ne peux pas faire tes lois ». Et c'est là qu'on utilise la clause dérogatoire. Ouais. Et il y a tout un processus en cours en ce moment à la Cour suprême concernant l'usage de la clause dérogatoire. Pour faire une histoire courte, ça veut dire qu'on peut déroger à la Charte des droits et libertés parce qu'il y a certaines de nos lois au Québec qui rentrent en contradiction avec la Charte canadienne. Donc là, on voudrait mettre ça dans notre Constitution. Et Simon-Jolin Barrette a un certain talent pour trouver des façons innovantes de faire au niveau des lois. Il avait réussi notamment à insérer certaines choses directement dans la Constitution canadienne. Mm-hmm. Ça sortait un peu de nulle part, cette affaire-là. Donc, peut-être qu'il a vraiment l'impression d'avoir bien fait les choses puis d'avoir une Constitution qui est bien ficelée. Mais là, je veux arriver sur l'aspect plus politique. Une Constitution, ce n'est pas un projet de loi partisan, là. C'est pas supposé d'être un ministre d'un parti politique dans son bureau qui écrit ça. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que le processus n'a pas été assez ouvert et qu'il aurait dû avoir des consultations qui sont plus larges. Simon-Jolin Barrette lui dit, moi, j'ai parlé à plein de gens dans la dernière année, mais ça reste opaque. Oui, toi, tu parles aux gens que tu as décidé que
ouais, tu parlais. Oui, tu as décidé à qui tu parlais.
Puis tu as décidé de retenir ce que tu retenais.
Oui, puis là, il nous dit, bien là, il faut bien partir de quelque chose.
Ben, c'est ça. C'est comme, lui, il dit, voici la V1, voici la version 1 de mon document.
Ouais.
Mais en plus, ça arrive dans un contexte où la CAQ, il n'y a pas grand-chose qui passe présentement.
Bien, c'est ça. Tu sais, ça rejoint ce que Sam vient de nous écrire par texto 418-971-101. La CAQ n'a plus rien à perdre avec son futur environ zéro député depuis l'automne à l'automne prochain. Donc, ils tirent dans tous les sens avec les bouchées doubles pour remonter dans les intentions.
Ils sont hyper actifs du côté législatif. Ils déposent plein de lois.
On peut-tu donner un peu de Ritalin, Simon-Jolin Barrette?
Tout le monde devrait prendre une petite tisane là, présentement. Là. Regarde, on approche de Noël. Là. Calmez-vous
ouais,
les nerfs.
C'est ça.
Non, mais sérieusement, une constitution, c'est supposé d'être un texte qui va être transpartisan quand même. Là. Mm-hmm. Idéalement, tu déposes ton projet, tu as fait des consultations plus larges dans la société civile Et on pourrait s'attendre à une adoption de ce projet de loi-là qui soit unanime, dans un monde idéal.
Ben, t'sais, le meilleur exemple, je pense, d'un projet, puis je reviens souvent à celui-là parce qu'il m'avait marqué, c'est l'aide médicale à mourir.
Oui.
J'ai été piloté par Véronique Yvon. Tous les partis politiques ensemble sont partis main dans la main, la gang. Ils ont fait le tour de plein d'associations, plein de médecins. Ça a pris des années pour revenir avec un projet de loi qui a passé par la commission parlementaire et finalement définir l'aide médicale à mourir. Donc, la Constitution, c'est encore plus important que l'aide médicale à mourir. Fait qu'il faut que ça soit fait de la même façon.
Ça peut pas être traité comme un projet de loi caquiste, là.
Ça peut pas être partisan.
Business as usual. Bon, là, il y a des consultations qui commencent aujourd'hui. Donc, les gens vont pouvoir s'exprimer, mais c'est très mal parti. Il y a beaucoup de gens qui sont très critiques. Il y a des gens qui trouvent que le projet est liberticide. Il y a la question de l'avortement. Il y a la question de la portée. Il y a la question aussi de la manière dont on peut amender cette Constitution-là. Et de manière générale, sur l'angle politique, mais la CAQ a un peu de difficulté à rassembler en ce moment. Simon Jolin-Barrette, c'est un ministre qui a été très prolifique, qui a fait beaucoup, beaucoup de réformes super intéressantes. C'est quelqu'un qui est très proactif, souvent au-devant de la parade. Là. Il n'attend pas quelque chose dans le journal. Il transforme le système de justice. Il faut rendre à César ce qui revient à César. C'est un excellent ministre de la Justice qui a fait plein de choses. Mais sur la Constitution, ça arrive beaucoup trop tard dans le mandat. La CAQ est dans les bas-fonds des sondages, puis je comprends qu'on ne peut pas gouverner par sondage et que le gouvernement est majoritaire jusqu'à l'automne prochain. Mais à un moment donné, il y a quand même un aspect d'être rassembleur puis d'être en mesure de porter un projet. Ça ne pouvait pas être traité comme un projet de loi normal. Ça aurait dû, puis c'est un excellent exemple que tu as donné, Jeff, ça aurait dû être traité comme la médicale.
Ouais. Ça se peut-tu qu'il y ait eu divergence d'opinion dans la vision de Simon Jolin Barrette en tant que ministre de la Justice, puis peut-être celui de son leader, qui est François Legault actuellement, qui a peut-être plus une vision de réélection, pas nécessairement pour lui, mais pour son parti, ou de tenter d'avoir une continuité. Ça se peut-tu que les deux se sont assis ensemble, puis là, ils ont essayé de voir, puis il a dit à Simon Jolin Barrette, là, il va falloir que tu slackes, ou il va falloir que tu le fasses d'une manière à ce qu'on soit apprécié, ou... Est-ce que tu penses que...
Ben, c'est pas ça qui se passe. Fait que non. Ça voudrait dire que François Legault aurait perdu son combat face à Simon?
Non, mais Simon Jolin Barrette, par la personnalité politique qu'on lui connaît, c'est de se tenir puis d'être un peu... Et là, je le mets entre parenthèses, mais la vision que j'ai, puis j'arrive pas à trouver le bon mot, c'est autistique sur ses dossiers. Tu sais, c'est un gars qui est rigoureux, c'est un gars qui va aller de l'avant, c'est pas le plus charismatique, il fait avancer les dossiers. Il y a peut-être eu confusion ou encore genre de coltaillage entre lui et Legault, puis il dit, ben moi, je vais mener à terme ce que j'ai été élu et qu'on m'a demandé de faire, de la manière dont je le pense.
Que Simon Jolin Barrette ait poussé pour qu'on le fasse, sûrement, parce que je pense pas que c'est dans les trois priorités de François Legault, mais il y a absolument aucun projet de loi qui va être déposé sans que le cabinet du premier ministre l'ait approuvé. Mm-hmm. Là. Donc.
Oui, puis ça fait partie de la priorité identitaire de François Legault là, qu'il avait nommé. Je trouve j'ai un excellent texto qui est rentré ici, 418-971-1021, parce qu'on parle justement de gouvernement majoritaire. Sauf que le gouvernement majoritaire n'a pas été élu par la majorité de la population, donc le gouvernement en place doit mettre, doit autrement dit, repenser avant de mettre des lois en place comme ça, parce que c'est là que ça prend l'adhésion de la majorité ou même dans ce cas-là de la totalité.
Pour un projet comme celui-là, oui. Ouais. Parce que c'est vrai que tous les gouvernements sont... Il n'y a pas de gouvernement élu avec une majorité absolue.
Ça n'arrivera jamais.
Ça n'arrivera pas. Puis ils ont quand même une légitimité de gouverner.
Ouais.
Mais je pense que si la CAQ avait déposé ce projet de loi-là, peut-être en 2023, ou, t'sais, j'ai l'impression que ça aurait peut-être plus cheminé que maintenant. Il n'y a comme plus rien qui passe, on dirait, en ce moment. Donc, c'est un peu dommage parce que j'ai pas l'impression que les Québécois vont avoir tant de niveaux d'attention pour plein de projets de constitution. T'sais, j'ai l'impression qu'on brûle un peu une cartouche.
Troisième chicane, PSPP et le milieu culturel. Il s'en est pris à Laurent Dubois, qui est justement là, un des présidents au niveau culturel, c'est au niveau de la télévision et du cinéma. Voici ce qu'il avait à dire.
Quand M. Dubois dit « c'est rassurant d'avoir quelqu'un de cette envergure
on parle
pour faire
de
entendre
Miller.
La voix des artistes », ça vous paraît vraiment inacceptable qu'une association qui travaille donc partout au Canada, en passant pour les francophones, dise ça? Vous trouvez ça inacceptable, ça?
Il nie le déclin du français. Il vient de nous le redire, que ça le tanne. Puis on
a un
milieu culturel absolument fragilisé.
Avant.
Je vous donne d'autres citations.
Oui, mais le
Je pense qu'il va être un grand porteur de dossiers. Je ne doute pas de son attachement pour la culture québécoise. À quel point il faut être déconnecté de l'actualité politique du Québec et du Canada dans les 12 dernières années? Et à quel point il faut être dans le déni de ce qui se passe avec la culture en français au Québec pour faire ces affirmations-là?
Je te fais une observation. Laurent Dubois joue son rôle d'organisme qui a besoin d'aller chercher des subventions.
Ben, c'est pas faux.
J'ai déjà été dans ce rôle-là, puis oui, quand le politicien arrive, tu lui dis bonjour, comment ça va?
Non, mais
puis,
pourquoi?
Puis t'es gentil avec, puis tu l'accueilles. Regarde, hier, j'animais le cocktail de bénéfices au Patro Laval, Étienne Grandmont.
Tu t'es envoyé promener tes bailleurs de fonds?
Ben non, Étienne Grandmont est dans la salle, il nous a aidés pour le projet d'agrandissement, il a cherché de l'argent, il a réussi à aller chercher de l'argent un peu partout, fait qu'il est là. Monsieur Grandmont, merci beaucoup pour l'agrandissement qui est en train de se faire. On salue votre travail, tu sais, c'est normal, puis je voterai pas QS aux prochaines élections, mais c'est juste normal.
Ça veut pas dire qu'il y a des artistes qui vont pas prendre position pour la souveraineté, qui vont pas des fois avoir des... Mais comme collectivité, les organisations qui représentent les artistes en ce moment, c'est sûr qu'en attendant le grand soir, là, puis que le Québec va être indépendant, il y a pas mal d'argent qui est à Ottawa.
Ben oui.
Et le fédéral finance...
Téléfilm Canada.
Téléfilm Canada, notamment, finance des œuvres culturelles francophones et québécoises de manière importante. On parle de centaines de millions de dollars là, dont les artistes ont besoin pour qu'on puisse avoir un milieu culturel qui est fort. Quand j'ai entendu le choix de mots du chef du PQ, je me suis dit... Je comprends pourquoi il pense ça, mais est-ce que tu es toujours obligé de dire tout ce qui te passe par la tête tout le temps?
C'est-à-dire,
tu sais, mettons, puis on jase, là, puis ça, peut-être les gens vont dire, ben, t'es pas honnête. Ben, je suis pas honnête à longueur de journée. Je veux dire, moi, des fois, il y a des gens, j'ai des choses que je pourrais dire qui sont bien négatives, puis je choisis de les garder pour moi,
ça arrive. C'est tout à fait normal.
Pourquoi? Parce que je me dis, à quoi ça me sert? Est-ce que c'est utile? Est-ce que la personne va changer son comportement? Est-ce que ça me... J'ai-tu un objectif stratégique? Quand t'es chef de parti, il faut que tu sois un peu stratégique. Attaquer Mark Miller, bien sûr. Puis tout le monde l'a fait, là. Puis, tu sais, je t'en dirais qu'à TV lundi, pendant la sermentation de Mark Miller, et j'ai dit la même chose que François Legault puis Paul Saint-Pierre Plamondon, juste sans les insultes. J'ai dit, tu sais, c'est pas un allié de la langue française. Il nie le déclin de la langue française. C'est un multiculturaliste fini qui rentre en contradiction régulièrement avec le nationalisme québécois, qui pense que c'est une tare d'être nationaliste puis de défendre la nation.
T'es trop gentil, Antonine Iaccarini. Il fallait que tu dises honte! Mark Miller nous fait honte!
Ben, écoute, c'est correct.
On va pas se mettre à genoux devant lui!
Mais... ça va un pas plus loin d'aller dire aux gens qui disent pas comme toi que ce sont des gens qui manquent de loyauté.
En effet.
Aplaventriste. T'as raison. Vacuité intellectuelle. C'est des mots que Paul Saint-Pierre Plamondon a dit. Puis honte, évidemment, là, François Legault, quand il parlait de Mark Miller.
Mais t'as raison. Puis vois-tu, Serge nous écrit, tu le soulignes simplement sans en mettre trop.
Ben, c'est ça.
Puis là, il en a trop mis, puis il a fait des entrevues. Puis là, la face tout croche dans l'écran parce qu'il est fâché.
Il nous a expliqué aussi dans son statut, dans sa publication sur Instagram, que des fois, ses propos dérangent, mais que les gens, ça finit par devenir des évidences. Qu'est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon dit? Écoute, je suis pas convaincue de cette approche-là.
Ben non, parce que là, c'est, écoutez, oui, je suscite la controverse.
Mais j'ai
Et
raison.
Oui, mais... quand le temps passe, tout le monde me donne raison. Écoutez-moi, je suis PSPP. Nous sommes maintenant...
soyons honnêtes, là.
Une nation laïque, mais il y a un nouveau roi qui règne.
Mais soyons honnêtes, il est le roi des sondages.
Ben c'est vrai. C'est vrai.
Donc, visiblement, ça ne dérange pas tant que ça, les gens, cette attitude-là.
C'est ça.
Mais, mettons, stratégiquement, là, une fois que tu as dit ça aux artistes, là, à quel point tu es mobilisé de ton bord?
Ben...
tu sais, moi, quand je veux convaincre quelqu'un d'aller à la guerre avec moi, là, je veux convaincre le monde d'aller à la guerre contre le fédéral, tu commences-tu par leur sacrer un coup de poing en face ou tu dis, garde, je suis pas d'accord avec ton approche, mais je vais te démontrer que le fédéral,
ton
ami.
Tu fais tout ce que bon souverainiste fait, tu comprends pas.
Oui, mais c'est ça. Ça, là, c'est la réputation. C'est ce qu'on appelle dans le jargon politique de Québec les « angry péquistes ». On nous traitait de « angry ».
Ah ouais, les « angry péquistes ».
Oui, puis sur les médias sociaux, ils sont vite à nous traiter de...
comprends
de
pas.
Coloniser, puis de toutes sortes d'affaires comme ça.
Comprends pas, Laurent Dubois.
Il comprend rien.
Il comprend rien. Hey! Ma pleuvante devant Mark Miller.
Il l'a traité d'imbécile avec des beaux mots.
C'est juste que c'est avec des beaux mots, exactement. Les brownies. J'aurais plus le droit de donner de brownies, moi. J'aime ça, les petits gâteaux.
Oui, mais là, c'est ça. Tu vas quand même avoir le droit de faire des petits brownies. Tu as même le droit de mettre du pot dedans parce que maintenant, c'est légal.
C'est vrai, c'est légal.
Donc, non, là, on parle pas de ces brownies-là. Yes. On parle des 100$ que l'histoire de la crise au PLQ nous aura révélé que peut-être... on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai, mais peut-être qu'on a payé des gens pour voter pour un des candidats à la chefferie du Parti libéral du Québec, 100 $ quand même.
Alors là, Jean-François Roberge, demain, fait un projet de loi puis il dit, il n'y en aura plus de brownies. C'est pour ça, de toute façon, tout le monde est d'accord, même Pablo Rodriguez.
Ben, surtout lui, là. Écoute, il faut qu'il contrôle ouais, mais sa gang.
Attends, Pablo a pris position. Il a pris une décision.
C'était clair. Ben, écoute, il a exclu Mawarski aussi cette semaine. C'est il ça. L'avait juste suspendu. Ben, là. Il est très décisif
non,
cette semaine.
Non, là, Pablo, c'est une grosse semaine pour lui. Là.
Donc, projet de loi qui va être déposé d'ici la fin de la session parlementaire. La session finit le 12 décembre.
Fait que vendredi prochain.
Vendredi prochain.
Excellent.
Mais ça ne va pas s'appeler projet de loi interdisant les brownies. Ça devrait être un nom un peu plus plate.
Je pensais que c'était projet de loi brownies.
Ben, on va l'appeler de même, tu sais bien.
On devrait mettre des petits noms de même coquins au projet de loi. Ça serait le fun. On termine avec la coach, France-Hélène
belles puis qui ont un enjeu de logement. C'est parce qu'il y a une situation sous-jacente souvent. Alors, des fois, ça prend de l'aide psychosociale. Des fois, ça prend un peu de coaching pour se présenter devant un propriétaire, inspirer confiance, puis le convaincre de nous louer le logement.
J'aime ça quand tu me rappelles à quel point France-Hélène Durançon était une mauvaise ministre de l'Habitation. Tu sais, il y avait une crise du logement, il manquait de logement pour les personnes qui n'étaient pas en moyen.
Mais c'est de la
faute
des locataires, ils ne se présentent pas bien.
Exactement, ça prend du coaching.
T'sais, prenez une petite douche là, avant d'aller visiter un logement.
C'est ça, venez me voir, je vais vous le dire. Amadouer le propriétaire.
Il faut que je m'excuse là, envers France-Hélène, parce que hier, elle a fait une joke.
Oui, vous savez comment j'aime le coaching.
Compris.
Ben non.
Elle mais dit, vous savez comment j'ai un historique.
C'est ça, mais là maintenant, on la comprend.
Puis qui ont un enjeu de logement. C'est parce qu'il y a une situation sous-jacente souvent. Sous-jacente. Alors, des fois, ça prend de l'aide psychosociale. Des fois, ça prend un peu de coaching pour se présenter devant un propriétaire, inspirer
c'est
confiance,
ça.
Puis le convaincre de nous
allez
louer
magasiner.
Le logement.
Ah, c'est ça. Allez, magasiner.
Fais un petit makeover.
Hey, un logement, là, avant que le locataire parte, il était 800 pièces. Puis là, il est rendu 1300 pièces. Mais c'est pas ça le problème.
Non, il faut que tu le convainques. Mais les tu peux faire un PowerPoint?
C'est
tu sais, mettons, avant d'aller visiter un logement, tu fais une présentation. Pourquoi vous devriez me prendre? Comme... C'était tellement bon, c'est excellent. c'est un excellent souvenir. Mais hier, on s'en est pas rappelé. Puis non. J'ai dit, viens ben dans sa bulle, de quoi qu'elle parle de coaching? Mais ça m'a frappé hier soir, je pense que je t'ai texté à 22h.
Ben oui, je le sais.
Ça vient de me revenir. Fait qu'on s'excuse, France-Hélène. On n'a pas compris ton second degré. Bon sens de l'autodérision.
On s'excuse vraiment, France-Hélène. T'étais une bonne ministre de l'Habitation. C'est pour ça que t'es rendue présidente au Conseil du Trésor. Ça a super bien été ta présentation hier pour diminuer de 5000 fonctionnaires. Il y avait.
Mais elle n'a pas fait de gaffe.
14 si. Puis, on a dit...
Hey, 35 c'est un bon point heures. De presse. Moi, j'ai trouvé hier, c'était un bon point de presse. C'est juste, ça demeure un peu flou. Mais au moins, elle n'a pas fait de gaffe. Elle n'a pas dit quelque chose qui a blessé les fonctionnaires.
Tu as raison. Hein? C'est un bon point.
Elle a reçu du coaching.
Oui.
En communication.
Est-ce qu'on peut coacher François Legault en communication? Parce que là, j'ai juste le goût de l'appeler par le nom que François Legault a dit. Mais je ne le dirai pas parce que sinon, toi et Pascal, vous allez être fâchés après moi.
On puis arrête ici.
Puis, je veux pas faire de chicane dans le studio. Qu'est-ce que t'en penses, Pascal? Il n'y a pas de chicane ici.
Jamais.
Jamais. Antoine Niacarini, merci.
Bonne fin de semaine.
Merci. Moi aussi, je pars en fin de semaine.
Yeah.
Ah, bientôt. Dans une heure et demie, on fait une courte pause à l'émission On en jase. Par la suite, l'essentiel de l'actualité avec Pascal CV. Et on va recevoir notre ami Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. Êtes-vous surpris de ça, les filles? Bâtir Maison Canada, parce que moi, je l'appelle encore comme ça. J'ai trouvé ça ben trop drôle. C'est plate, c'est juste rendu Maison Canada. Bâtir Maison Canada. Bon, Bâtir Maison Canada, là, le directeur parlementaire il est sorti puis il a dit « Oubliez ça, on n'atteindra jamais ces chiffres-là. »
Oui, puis de toute manière, McCarney risque d'être occupé vendredi parce qu'on vient d'annoncer qu'il devrait rencontrer Donald Trump brièvement cette semaine, donc demain.
Notre sauveur va rencontrer Donald. On arrête tout ça, les tarifs, Antonine, à partir de demain?
Je suis très confiante. Pour bâtir Maison Canada, je veux juste te dire que je suis tombée en bas de ma chaise. Parce que ça m'a pris du temps avant de te répondre.
Ah, de me répondre?
Ben que je suis vraiment surprise que le directeur parlementaire du budget dise que ça marche pas comme dans la tête, comme la promesse électorale.
Je sais pas, je comprends pas. Pourtant, Mark Carney, c'était un bon économiste, ça, Pascal? Mark Carney, c'était le gars au CV? Mark Carney, c'est le gars qui allait révolutionner le pays.
C'est aussi le gars qui avait déposé son cadre financier un samedi de congé de Pâques. Hein? C'était pas pour rien.
C'est un bon point. Déficit de 78 milliards. On revient. Jusqu'à 14. Voyager en anglais ou en espagnol pour moins cher, ça te tente, surtout qu'Air Transat va peut-être être en grève. Et moi, je te propose un voyage sans bagages, sans stress et sans décalage horaire. Avec des départs à toutes les heures, 7 jours sur 7. C'est où, ça? C'est à la Maison anglaise. La Maison anglaise, c'est quoi? C'est simple. C'est une librairie où on a des centaines de livres en magasin et des milliers de livres audio en ligne pour t'amener n'importe où. Par exemple, vis l'aventure du département Q avec Jussi Alder Olsen. Découvre les bases de la nécroromancie et de l'alchimie avec Sun Lin Yu. Cuisine les recettes de la Palestine avec Boustany ou fais un ami de ton cerveau avec Rachel Barr. Bref, ton imagination est la seule limite. La Maison anglaise, c'est facilement accessible en voiture, en bus, à vélo ou à pied parce que c'est situé à Place de la Cité. Et pour les livres audio, tu visites lamaisonanglaise.com.
En ce moment.
Émission d'en jazz sur les ondes de 102.1 Boulevard. Meilleure façon de nous écouter, l'application Boulevard. D'ailleurs, télécharge-les. Active les notifications, tu pourrais gagner des prix. C'est sur App Store et Google Play Store. Vous pouvez nous écouter aussi via la web radio blvd.fm. Vous pouvez également aller réécouter les meilleurs segments de l'émission, dont le caucus avec Antonine Iaccarini, qui vient de se dérouler du lundi au jeudi, de midi à 12h30. On est également sur twitch.tv/blvd/fm. Et par texto 418-971-1021. Puis les petits haut-parleurs intelligents, parce que vous savez comment on dit ça, non?
BLVD-1021.
Et voilà, BLVD-1021. Et tu vas pouvoir nous écouter sans problème. Météo, moins 7 degrés à l'heure actuelle, moins 14 avec le refroidissement éolien, moins 13 demain, possibilité d'averse de neige. Et il annonce moins 28 cette nuit, Pascal. Ouf! On va sortir la grosse couverte pour dormir.
Oui, ça va être le temps de se réchauffer puis aussi de brancher leur voiture. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui branchent leur voiture.
C'est vrai,
moi,
ma vieille voiture, je la branchais, t'as raison. Moins 7 degrés samedi, moins 10 ensoleillé pour dimanche. Donc, l'hiver est bel et bien amorcé au Québec en ce beau mois de décembre. Pascal, je regarde présentement la télévision. France-Hélène Duranceau qui s'exprime devant les médias. C'est simple, on a décidé de sortir de la table des négociations du côté de la Fédération des médecins et praticiens du Québec. Donc, on est de retour à la case départ.
Exact. On a tenté de renégocier, ça n'a pas fonctionné. Alors, on a claqué la porte. C'est un peu ça, en fait, qu'il faut comprendre la situation actuellement qui est reliée au projet de loi 2. Réfifié aussi du côté de l'Assemblée nationale, il y a Pascal Bérubé qui est sorti dans les dernières heures et qui a pointé du doigt à la ministre Caroline Proulx parce qu'elle a pointé, elle, du doigt la conjointe de Pascal Bérubé suite aux propos de Paul Saint-Pierre Plamondon. Il a dit que c'était une honte, une partie substantielle du milieu culturel québécois, que la vacuité intellectuelle et l'appleuventrisme sont franchement gênants au niveau de tout ce qui se passe dans le culturel. Alors, c'est des propos qui sont quand même importants. Et Caroline Proulx a pointé du doigt Pascal Bérubé en disant « Bien, j'ai bien hâte de savoir ce que la conjointe de M. Bérubé en pense, celle qui fait partie de l'Union des artistes et qui, assurément, bon, fait partie du palmarès culturel. » Elle dit « Je serais très curieuse d'entendre le député de Matane Matapédia, dont la conjointe est une productrice télévisuelle extraordinaire qui produit de grands reportages à la télé publique du Québec, comment lui réagit et comment sa conjointe a réagi à la lumière des déclarations de son propre chef, Paul Saint-Pierre Plamondon. » Il faut savoir qu'il y avait une panoplie de qualité qu'elle lui donnait dans sa prise de parole, mais pour M. Bérubé, qui a toujours dissocié sa vie privée et sa vie professionnelle, ça a été un affront direct en disant « Ne mêlez personne d'autre que ceux qui sont en politique dans le dossier. »
Exactement. On écoute justement ce mini-réfifi. Premièrement, Caroline Proulx, que vous allez entendre, et par la suite, Pascal Bérubé.
En fait, je serais très curieuse d'entendre le député de Matane-Matapédia, dont la conjointe est une productrice télévisuelle extraordinaire, qui produit de grands reportages sur la télé publique du Québec, comment lui réagit ou comment sa conjointe a réagi à la lumière des déclarations de Paul Saint-Pierre Plamondon? J'ai très hâte d'entendre les commentaires. Comment sa conjointe va faire pour aller chercher des subventions?
Ça me heurte profondément qu'on utilise ainsi ma conjointe qui est productrice et qui a une carrière grâce à son talent et ses efforts. Je l'aime. Personne ne va s'attaquer à ma conjointe. Elle devrait s'excuser. En plus, je vois l'extrait sourire en coin. S'attaquer à ma conjointe qu'elle considère comme une amie. Écoutez, j'ai jamais vécu ça en 18 ans de vie politique. D'utiliser ma conjointe pour m'attaquer ou attaquer ma formation politique, ça passe pas.
Alors, bref, c'est un dossier qui est à suivre, mais Paul Saint-Pierre Plamondon a mis le feu partout. Pascal, c'est vrai, Grim?
Oui, c'est parti. Celui qui désirait sûrement pas trop attirer l'attention négative en ce moment a réussi quand même à faire parler de lui négativement aujourd'hui.
Exactement. 39% dans les sondages, je pense qu'il aurait pu... tu sais, comme au Monopoly, là, on passe go, on réclame 200, puis pas trop parler.
Exact. Et oui, souvent, c'est la stratégie.
Il aurait dû se tenir loin d'une controverse.
Il y a quelque chose qui a été rattrapé des mains du ministre, en fait, du ministre qui est connu pour parler un peu plus maintenant. Le ministre Roberge, donc, qui est responsable des institutions démocratiques. Et avec ce qui se passe au Parti libéral, il a décidé d'aller chercher un petit peu de capital politique avec le gouvernement Legault qui se passe un petit peu moins bien, là, qui passe un peu moins bien dans les intentions de vote et dans le cœur des Québécois en ce moment. On a pris cette crise au PLQ puis on a dit « Ah, on va déposer un projet de loi, nous, contre les fameux brownies. Hein. » On a pris un peu le manque de crédibilité du PLQ puis on a dit « Ben, nous autres, on va s'en donner en faisant en sorte qu'on veut déposer un projet de loi demain qui vise à empêcher qu'on puisse donner de l'argent à une personne pour acheter son vote dans le cadre d'une course à la chefferie d'un parti politique. » On s'entend que c'était pas depuis... cette dernière situation que ça existait, cette façon de faire-là. Moi, je le vois, puis je vous écoutais dans le caucus, Iacarini, si j'avais mis mon grain de sel, c'est celui-ci. C'est vraiment du capital politique qui est en train de se faire par M. Roberge. Selon mon opinion personnelle, il est en train de se dire comment est-ce que la CAQ peut briller dans le fait que
ouais, tu
le
vois,
Parti
moi,
libéral ne brille pas.
Je suis en désaccord parce que j'ai l'impression que ces fameux brownies-là c'était passé sous le radar de tout le monde. Et quand les textos sont arrivés, tous les partis politiques ont dit « Ben, ça n'a pas de sens que ça ne soit pas légiféré. »
Ben peut-être cette situation-là, mais la façon de faire existait déjà. Ça avait été déjà vu. C'est des choses qui s'étaient déjà passées. On appelait déjà un brownies le billet de sang parce que ça existait.
Ouais.
C'était des choses qui étaient connues. Puis, ils ont vu une situation être livrée sur un plateau d'argent et ils se sont dit « Comment nous, est-ce qu'on se fait briller à ce moment-là? » Déjà, ouais. On nécessite d'avoir un petit peu plus...
À la différence que... ça se faisait dans l'illégalité pour des élections, mais là, c'était légal pour des élections de chefferie.
Oui.
Fait que là, on va venir le rendre illégal avec
exactement.
La loi.
Exactement. Alors, c'est un peu une façon de se faire une belle jambe là-dedans, puis de, dans un genre de entre-deux lignes, dire « Nous autres, on laisserait pas passer ça. » Ça arriverait jamais au sein de la CAQ. Mm-hmm. Vous voyez, le PLQ est corrompu. Vous voyez, le PLQ a des problèmes avec sa façon de faire. Moi, je le vois un peu comme
ouais,
ça.
Oui, de l'autre côté, c'est demandé à l'unanimité, là, quand même, par les autres partis.
Et c'est, ben oui, ben c'est sûr que tout le monde va vouloir aller chercher son grain de sel là-dedans, puis tout le monde doit être en accord avec la vertu en ce moment, puis ça fait couler le PLQ. Pourquoi pas, hein? C'est ça,
yes,
la politique.
Let's go!
Collision à Issoudun, il y a un camion rempli de colis Amazon qui a été éventré. Si vous avez commandé des choses, hein, Vendredi fou, Cyber Monday, on le sait, c'est assez percutant à quel point Amazon est capable de faire de l'argent dans ces journées-là. Et justement, c'était le cas parce qu'il y avait deux camions dans le Binière qui partaient avec des centaines de colis Amazon et il y a eu une violente collision justement, puis il y en a un de ces camions-là qui est entré justement en face-à-face avec un autre, puis ils se sont retrouvés sur la chaussée. L'affaire, c'est que ça a tout été déployé sur l'autoroute. Donc, un des deux conducteurs a dû être transporté à l'hôpital pour traiter des blessures mineures. C'est la très bonne nouvelle dans tout ça. Mais il y a eu du ralentissement sur la route parce que ben, les colis étaient partout. Alors, si vous voulez un genre de... feedback sur ce qui arrive avec vos cadeaux de Noël ou vos commandes, va falloir directement parler à Amazon puis suivre vos colis, peut-être qu'il était dans ce camion-là, qui a fait une collision avec un autre ce matin. Nouveau cas de rougeole au Québec, donc il a été déclaré dans la grande région de Montréal. La personne infectée se trouvait au centre d'urgence pédiatrique du côté de Saint-Eustache et c'est le 28 novembre qu'on a eu la nouvelle. Il faut faire attention avec cette nouvelle-là, il faut le prendre au compte-gouttes, mais quand même, il faut aussi donner du temps dans l'actualité parce que vous le savez, la rougeole, c'est une maladie qui est très contagieuse. Souvent, c'est de la fièvre, de la toux, écoulement nasal, les yeux rouges, larmoyant, des choses qu'on connaît finalement.
Ouais.
Mais c'est accompagné d'une éruption cutanée. Et c'est là où ça devient important aussi de voir s'il y a des taches rouges, des plaques irrégulières sur des corps. Ça apparaît environ 3 à 7 jours après le début des symptômes. Et c'est important parce que c'était une maladie qui était presque éradiquée ici avec la vaccination. Puis là, vu qu'il y a eu un petit peu moins de popularité hein, au niveau de la vaccination, c'est en recul.
Allez faire vacciner vos enfants.
Et je termine avec Marc Carney qui doit rencontrer Donald Trump brièvement demain. C'est une nouvelle qui vient de tomber, donc le premier ministre canadien. Va-t-il réussir à avoir une conversation efficace avec le président américain? La question se pose. Par contre, c'est en marge d'un tirage au sort de la FIFA qui vont se rencontrer brièvement. Il y a le bureau du premier ministre qui a indiqué à Radio-Canada que les deux dirigeants vont se rencontrer. Ça va se faire dans la capitale fédérale américaine, au centre Kennedy. Il va y avoir justement ce tirage au sort de la Coupe du monde de football 2026. Et Mark Carney désire s'entretenir, entre autres, aussi avec la présidente mexicaine. Et il tente, bien que mal, de faire une différence dans l'économie canadienne par ses rencontres.
Oui, exactement. Le tirage de la FIFA, Pascal, c'est très important pour le Canada parce que le tournoi se déroule Canada-États-Unis-Mexique, le prochain tournoi 2026. On a décidé de faire ça pour ne pas dépenser des milliards et des milliards de dollars en infrastructure parce que un des derniers avait eu lieu au Brésil, puis le Brésil s'est carrément endetté avec ce mondial-là. Mais le Canada, là, demain, là, ça joue gros parce qu'il pourrait se retrouver dans leur groupe avec l'Italie, 12e au monde, mais il pourrait aussi se retrouver avec un groupe avec la Jordanie, le Cap-Vert et le Ghana, qui sont tous classés 66e, 68e et 72e au monde. Donc, il faut suivre ça attentivement. À compter de 10h30 demain matin, le Canada est classé 27e au monde. Donc, s'il se retrouve avec Jordanie, Cap-Vert et Ghana, bien, on va se dire, okay, mais le Canada a des bonnes chances de passer en quart de finale.
On est de plus en plus fort à chaque année.
Oh que oui.
Mais alors, merci à l'immigration aussi. Hein,
ouais, ben, vraiment, clairement.
Énormément aidé.
Il y a énormément de joueurs issus de l'immigration dans, oui, dans notre équipe canadienne. Donc, ça va être un tirage à surveiller demain pour ce mondial qui aura lieu à l'été 2026. Parlant du Canada, on va aller parler de bâtir Maison Canada avec Gabriel Giguère, notre chroniqueur économique qui provient de l'Institut économique de Montréal et est analyste senior. Gabriel, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Good. Gab, je te fais écouter Mark Carney lorsqu'il a annoncé justement, puis là, moi, je ris toujours parce que je l'appelle encore bâtir Maison Canada.
Maison Canada va transformer la façon dont notre pays augmente l'offre de logements. Bâtir plus vite, bâtir plus intelligemment et bâtir à moins de coûts. Maison Canada sera le guichet unique du logement abordable et accélérera les grands projets immobiliers pour les mettre rapidement en chantier. Cette initiative jouera un rôle clé dans notre plan visant à doubler le rythme de construction de logements au cours de la prochaine décennie.
Bon, on donnera pas une bonne note pour le français de Mark Carney, Pascal.
Ça s'améliore, par exemple, ça s'améliore. Il se reprend aussi.
Mais là, Gabriel, ce qu'on apprend de la part du directeur parlementaire du budget, c'est que on est loin de la note de passage pour Maison Canada. On voulait 500 000 mises en chantier annuellement, puis c'est quoi? On va en avoir à peine 25 000?
Ben, il y a deux choses à dire. La première des choses, évidemment, ça passe pas l'OQLF. Ça, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. La deuxième des choses, effectivement, là, tu sais, c'est un 30-40 secondes de clip qu'on entend le premier ministre essentiellement nous vendre de la pensée magique, nous expliquer que le gouvernement fédéral avec Maison Canada ou bâtir Maison Canada sera capable de faire doubler les mises en chantier, ce qui est une vue de l'esprit très concrètement. Le directeur du bureau parlementaire du budget nous l'a dit là hier avec son dépôt de rapport. En fait, ce qu'il dit, c'est que avec la première enveloppe de 13 milliards de dollars que Maison Canada aura, on va plutôt en 5 ans construire 26 000 logements. Donc là, faut juste comprendre en ordre de grandeur. Quand on nous vend en élection, écoutez, on va doubler le nombre de mises en chantier au Canada. Si on fait une règle de pouce à peu près, on est aux alentours de 250 000 mises en chantier. Fait que ce que ça veut dire concrètement, c'est que si Maison Canada vient faire doubler les mises en chantier, ben, ce serait un autre 250 000 de plus par année. Là, ce qu'on comprend, c'est que c'est 26 000 sur 5 ans. Donc, on comprend qu'on nous a vraiment vendu absolument n'importe quoi en campagne électorale. On n'y arrivera pas. Et 26 000 logements, c'est pas ça qui va faire une grande différence, là. Mark Carney s'est fait questionner sur la question, plutôt sur cet élément-là, puis le rapport hier. Et ce qu'il expliquait, c'est oui, mais si vous regardez en note de bas de page du rapport, on parle de 83 000 financements. Mais le diable est dans les détails. Parce que ce qu'on vient faire avec bâtir Maison Canada, c'est justement cette chose de dire, nous, on va financer là 80 quelques mille logements. Mais le directeur du bureau parlementaire dit « Attendez un petit peu, là. Quand on regarde votre financement, il y a deux types de financement. Il y a ce qu'on appelle du financement causal, qui veut dire que le financement fait en sorte qu'on vient construire un logement. Et il y a du non-causal. Et sur 83 000 logements financés, il y a juste 14 000 logements de causal. Donc, on nous explique là qu'on contribue, mais on n'a même pas besoin de l'argent du fédéral pour l'immense majorité des constructions. Ça se ferait quand même. Ouais, donc, on nous a vendu n'importe quoi.
C'est ça. Mais là, j'ai déjà vu des promesses ne pas être tenues, des promesses fausses en campagne électorale. Mais là, passer de 500 000 à 14 000, Gabriel, c'est complètement mentir à la population.
C'est même pas se tromper, là.
Non, non, c'est ça. C'est, on a pris... Ben, je reprends ce que tu dis, Pascal, et tu me corriges. On a pris les gens pour des valises. On a décidé qu'on y allait avec un nombre impensable juste pour se faire élire. Je me trompe pas.
Ou encore, on a mal évalué quelque chose, puis c'était clairement sur le chemin, parce que je peux pas croire qu'on a pogné un chemin où il y avait quelque chose qui nous en empêchait à ce point-là, puis que ça a coupé autant de logements.
Ben, tu sais, je me dis, est-ce que c'est parce qu'on a fait aucune analyse et qu'on a dit n'importe quoi, ou on a fait une analyse rigoureuse et on n'a pas trouvé personne pour nous expliquer que d'atteindre 2 % de sa cible, c'est pas quelque chose d'acceptable. T'sais, moi, je laisserai le premier ministre et le gouvernement nous répondre à ça. Mais c'est pas la première fois qu'on voit des échecs dans le monde occidental, de gouvernements qui se prennent pour des promoteurs puis qui se mettent le doigt dans l'œil. On a fait un rapport un petit peu plus tôt cette année, puis on s'est dit, ben, on parlait beaucoup de Maisons Canada au sein du gouvernement fédéral, et on s'est retourné à l'international, on est allé regarder en Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a un programme connu qui s'appelle Kiwi Build. Puis ça, en gros, c'est le gouvernement qui disait « Inquiétez-vous pas, il y a une érosion de l'abordabilité du logement chez nous, on va construire 100 logements en 10 ans. » Et quand on regarde la progression des logements, on a à peine atteint 3 % de la cible. Il y avait des journalistes à la boutade qui disaient, en Nouvelle-Zélande, avec ce rythme-là, on va arriver à notre objectif dans 436 ans. Tu sais, 436 ans, là. C'est une farce, mais tu sais, tu rajoutes 50 ans là-dessus, puis c'est la distance entre aujourd'hui puis l'arrivée de Jacques Cartier au Québec. Donc, on comprend évidemment que c'est pas ça au Canada, mais ça nous donne une vue de grandeur sur à quel point le gouvernement et les gouvernements sont incapables de jouer le rôle du privé. Ça, va falloir qu'on l'accepte.
Mais Gabriel, je t'arrête. Je t'arrête parce que j'ai une question qui va paraître peut-être stupide. Ça se peut-tu que quand c'est un projet gouvernemental, il y en a qui pèsent sur le crayon aussi, puis quand ils ont évalué leur projet, il n'y avait pas nécessairement approché des gens, donc il n'y avait pas la somme explosée par des entrepreneurs ou des gens ou des vendeurs de matériaux, des fournisseurs qui étaient devant eux puis se sont fait avoir par ce monde-là en disant « c'est un projet gouvernemental, le gouvernement va devoir payer le prix qu'on met sur le papier ».
Alors, c'est pas impossible qu'il y ait un petit élément de ça dans la réponse, mais quand on promet 250 000 pratiquement contribuer à la construction du double, donc à 250 000 logements, et qu'on arrive à 26 000 sur 5 ans, c'est tellement petit par rapport à la promesse, à l'ambition de la promesse, que ça, c'est très, très loin de cet élément-là. Là. Je pense que fondamentalement, le gouvernement aurait dû regarder en Grande-Bretagne, il y a eu d'autres flops où le gouvernement voulait se prendre pour le marché privé en Nouvelle-Zélande. Et là, je pense que c'est très, très clair. Collectivement, on comprend que le gouvernement nous a expliqué quelque chose de pratiquement impossible. Tu sais, même le gouvernement le comprend aujourd'hui avec ce rapport-là. On peut essayer de faire des contorsions en nous expliquant que on va financer 80 quelques mille logements sur 5 ans. Mais quand c'est du financement qui aurait été construit de toute façon le logement, c'est très difficilement justifiable d'expliquer un endettement des prochaines générations pour construire du logement qui aurait déjà été construit. Fait que dans ce contexte-là, si j'étais le gouvernement, si je faisais partie du gouvernement fédéral, je serais pas serein face au rapport, là. Parce que ça vient quand même dire très concrètement que la promesse électorale, elle sera jamais remplie, mais plus encore que c'est un peu de la dilapidation d'argent public. Et c'est là qu'on voit souvent que, ben, il y a deux éléments. C'est là qu'on voit que les programmes politiques ne répondent pas. C'est pas important les intentions, c'est les résultats, et on est très loin des intentions initiales. Mais c'est également un autre élément, je pense, qu'on doit se rappeler, c'est que les promesses politiques lors d'élections n'engagent que ceux qui y croient et pas ceux qui les disent, malheureusement. Et donc, on comprend que ça arrivera pas
on ne peut pas se fier au gouvernement fédéral pour ça. Je pense plutôt que c'est là qu'on doit revenir à la base, de dire, ben, en réalité, c'est les délais de permis, c'est le zonage restrictif, c'est également les taxes au développement qui auront une incidence beaucoup plus importante que le gouvernement qui se prend pour un promoteur privé.
Vois-tu un auditeur qui nous écrit, il y a plein d'entrepreneurs qui peuvent en faire à moindre coût des logements. C'est les villes et les gouvernements qui mettent des bâtons dans les roues avec leurs lois et leurs règlements. C'est tellement bien dit. Merci à cet auditeur. Tu parles d'interventionnisme, Gabriel, donc ça me fait penser à l'économie au Québec, parce qu'avec la CAQ, on est habitué de voir un gouvernement qui intervient partout et qui tente de diriger le marché. François Legault nous est arrivé quand il nous a présenté sa vision économique avec un beau PowerPoint en disant « Regardez comment on est meilleur que l'Ontario ». Mais on n'est plus meilleur que l'Ontario, Gabriel.
On n'est plus meilleur que l'Ontario. On apprenait ça plus tôt cette semaine. Le Conference Board du Canada nous présente les projections 2025-2026 de la croissance économique et le Québec est au bas-fond des provinces du Canada.
Attends, mais au bas-fond des provinces. Attends, là. Et Terre-Neuve, là, c'est endetté à mort, puis ils ont besoin de Churchill Falls. Tu viendras pas me dire qu'on est en arrière de Terre-Neuve?
En matière, ben, on s'entend, on parle de croissance économique. Puis tu serais même surpris de voir que Terre-Neuve et Labrador sera la province avec la meilleure croissance économique cette année à 2.
Ah, ouais.
C'est contre-intuitif, mais à 2,2% de croissance économique contre un maigre 0,5% au Québec, on est ceux qui vont le moins se développer sur le plan économique en proportion, là, soyons clairs. Et l'année prochaine, un petit 0,9% comme en Ontario. Donc, les deux provinces vont pas bien, mais quand on regarde dans l'Ouest, quand on regarde là où on vient exploiter nos ressources naturelles, nos ressources énergétiques, ça va bien. En tout cas, pas mal mieux qu'au Québec avec des 1,7, 1,8, 1,9% de développement en PIB réel, là, donc en incluant l'inflation. C'est un développement qui est beaucoup plus respectable. Et là, ça vient de nous poser plusieurs questions. Tu l'as dit d'entrée de jeu, la question de l'interventionnisme gouvernemental. On s'est beaucoup vanté auprès du gouvernement et même le premier ministre de cette fameuse moyenne au bâton, comme quoi ça permet et ça contribue au développement économique de la province. Mais ce qu'on constate, c'est que la direction avec laquelle on voit en fait le développement économique n'est pas glorieux, c'est pas impressionnant et c'est certainement pas la bonne vision économique à entreprendre. On en a parlé il y a quelques semaines lors du dépôt de la vision, mais il faut changer ce vieil interventionnisme qui au final donne un rôle au gouvernement qui ne devrait pas avoir de choisir les perdants et les gagnants, parce qu'en croyant choisir les gagnants, le gouvernement choisit souvent les perdants. Mais c'est aussi de voir un élément qui, je pense, on doit vraiment se poser la question au Québec. Comment ça se fait que c'est les provinces qui exploitent leur gaz, leur pétrole, les mines dans l'Ouest qui font de l'argent, puis le Québec, on est sur les lignes de touche.
On a ça, nous autres, on a du gaz naturel, Gabriel. On a de l'uranium.
On a du gaz naturel. Ben, on a les ressources naturelles qui nous permettraient de s'enrichir collectivement. Je regardais pour le plaisir. Tu me diras que c'est un peu bizarre, mais c'est vrai pareil. les salaires moyens par secteur et industrie.
Voyons, il est donc bien bizarre, Gabriel Jugard, Pascal CV, t'en penses quoi? Non, c'est qui ce chroniqueur-là? On raccroche!
Fait que c'est 150 000 $ de salaire moyen pour les gens qui travaillent dans le secteur gazier et pétrolier au Canada. Le salaire moyen au Québec en 2023, c'était plus aux alentours de 64 000. Fait que là, on est en train de ne pas permettre la création de salaires incroyables pour les travailleurs et les familles québécoises. C'est tellement de création de richesses.
Oui, mais Gabriel, c'est pas Hydro-Québec qui va tout nous gérer ça, là. On pogne 30 000 travailleurs du domaine forestier, on envoie ça à Hydro-Québec, on a un plan de développement de 150 milliards. Normalement, on devrait être meilleur que tout le monde.
Ben, c'est ça qui est drôle, c'est que nous, c'est quoi notre ressource qu'on peut vendre aux Américains, là, qu'on peut exporter? C'est l'électricité. Ben, je pense que tout le monde a vu dans les médias récemment que l'électricité, on est un importateur net à l'heure où on se parle. Mm-hmm. Normalement, on envoyait de l'électricité, puis d'ailleurs, c'est pour ça que Hydro-Québec aurait pas dû, là, soyons clairs, mais a signé certains accords de commerce avec les États-Unis, avec le Massachusetts notamment, pour exporter l'électricité. Puis aujourd'hui, avec les bateaux d'hydraulicité. Là, il n'y a plus beaucoup d'eau, en fait. À tout le moins, il y a assez d'eau, mais il n'y a quand même pas énormément d'eau dans les réservoirs d'Hydro-Québec, pas comme d'habitude, en tout cas, ce qui fait en sorte qu'on importe plus qu'on exporte. Et là, on se dit, ben, on voulait exporter beaucoup d'électricité, ça contribue à notre PIB. Aujourd'hui, on ne fait plus vraiment ça. Ce qui fait en sorte, au final, que on exporte moins de ressources naturelles qu'on pourrait exporter. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir des politiques publiques, notamment énergétiques, qui viennent freiner la prospérité. Mm-hmm. On a tout sur le territoire. Je pense que c'est juste un changement de mentalité, un changement de vision économique, puis on va être pas mal plus riche que ce qu'on est au Québec.
C'est tellement bien dit, Gabriel Giguère. C'est toujours un plaisir de te parler à chaque semaine, même si tu nous décourages, hein, Pascal?
Oui, parfois, c'est un peu décourageant.
Bâtir Maison Canada va atteindre 2 % de sa cible. Ah, va bien. En bon état, la campagne de Mark Carney.
Dans une
crise. On a foule de résultats. Puis là, bon, on apprend que la CAQ, ça fait 8 ans qu'ils nous tirent par le bas en matière économique. On t'aime quand même, Gabriel Giguère, je veux te le dire.
On continue. Aussi, là. Bonne journée.
Yes, on continue de brasser les affaires avec toi. Merci, mon chum. Salut. Hey, Pascal, c'est passé de quoi de bizarre à l'hôtel de ville? Parce que nous, on a interviewé Stéphane Lachance ce matin, dans Marceau le matin, ouais. OK? Puis là, on est revenu sur le budget, puis on a parlé un peu de tramway puis plein d'autres affaires. Puis au début de l'entrevue, il nous a dit « J'ai justement un plénier sur le budget ce matin. »
Exact.
Donc, il nous a donné une entrevue aux alentours de 8h30. Je me disais « Bon, le plénier commence à 9h. Ouais, » Puis normalement, c'est pas mal ça à l'hôtel de ville, si je me souviens de mémoire, les horaires. Mais là, on apprend dans les médias qu'il n'était pas là ce matin.
Oui, l'étude du budget a commencé, puis il y avait présentation aux élus de la part du service des finances, mais Stéphane Lachance n'était pas là. Le chef de l'opposition n'était pas là. Par contre, il était à 8h30 en entrevue avec
vous.
Oui,
puis là, tu sais, honnêtement, c'est ta première séance budgétaire comme chef de l'opposition. Il me semble que tu peux pas être à nulle part sauf au plénier du budget, là.
C'est un peu particulier. Peut-être qu'il y a des bonnes raisons, là. Mais c'est juste qu'en ce moment, c'est un peu nébuleux parce qu'on dit qu'il y avait des obligations personnelles qui avaient même reporté 3 fois, justement, à cause d'obligations de la ville. Ouais. Alors, c'était comme maintenant ou jamais. Il ne pouvait pas reporter une autre fois, d'où son absence. Écoute, ça ne peut pas l'empêcher de reprendre ce travail-là. Mais il y en a qui se questionnent à savoir pourquoi il était en entrevue à 8h30. Est-ce que son obligation personnelle était après votre entrevue? Il a décidé de la faire quand même. C'est-tu un coup d'épée dans l'eau en ce moment, puis il y avait vraiment quelque chose d'important?
Oui, exactement.
La question se pose quand même, mais c'est nébuleux. Puis
c'est nébuleux.
Il faut que ça soit sérieux.
Oui, et là, ce que je comprends aussi, c'est que finalement, Respect citoyen, bien, Marc Roussin et Mélanie Sauvé étaient là.
Oui.
Mais ils sont arrivés en retard après la pause, ils ont juste posé une question.
Oui,
fait que là, c'est pas un bon matin pour Respect citoyen.
Non. Bien, M. Roussin a justifié son retard à la période de questions. Il dit qu'il était en débriefing avec les experts, qu'on est qui sont pas fiscalistes, alors qui posaient des questions pour bien comprendre, pour être pertinent dans leurs questions, pour s'assurer d'avoir toutes les réponses. Écoute, ça aussi, ça se peut.
Oui.
Dans ce temps-là, moi, je me suis demandé quand même, est-ce qu'on peut demander un genre de petit report de la période des questions?
Exactement.
Point d'interrogation.
Non, en effet. Donc, mauvaise matinée pour Respect citoyen.
L'opposition n'était pas très oppositionnelle.
L'opposition n'était pas très en opposition côté budgétaire. Cet après-midi, c'est le maire Marchand qui va s'absenter parce qu'il rencontre Stephen Blaney à 14h30. Si j'ai bien compris, notre collègue Mathias Turcotte va être sur place, donc va pouvoir faire un résumé dans le retour de Gravel qui commence dès 14h.
Oui, très intéressant cette rencontre-là cet après-midi. Hein. Moi, je pense que l'interconnexion, oui, est importante dans les projets structurant à Québec et à Lévis. Ça fait des années qu'on en parle, autant au municipal qu'au provincial, un peu au fédéral quand même. Mais de voir deux maires de Québec et de Lévis s'entendre, on croise les doigts, ça fait plusieurs années maintenant qu'on n'a pas ça.
Et si ça peut arriver, c'est la très grande région de la capitale nationale de Chaudière-Appalaches qui va juste en bénéficier. On vient de parler d'économie. On va en bénéficier au niveau économique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pascal Cévé, Vincent Marissal, ça te dit quoi, toi?
Vincent Marissal,
l'ex-député de QS.
Ouais, oui.
Que là, il flirte avec PSPP pour aller au PQ. Il était chroniqueur à presse. C'est quelqu'un d'important, tu penses, au Québec?
Ben, moi, je pense qu'il a laissé sa trace politique, là, peu importe ce qu'on lui reproche.
Excellent. On parle de ça avec Rémi Villemur. On va revenir évidemment sur la controverse en culture aussi. Parce que Rémi Villemur disait, hey, je viens de constater que QS a passé à travers une crise. Ils étaient à 8 % dans les sondages avant la crise, puis ils sont à 8 % après. J'ai une théorie là-dessus.
Statu quo et il a une théorie.
Ouais, il m'a écrit « J'ai une théorie là-dessus, 3 petits points ». Est-ce qu'il veut me faire une théorie sur Vincent Marissal, nous faire? Est-ce qu'il veut nous parler d'autre chose de QS? On va découvrir ça après cette courte pause à l'émission On en jase à Boulevard 102.
C'est toujours bon.
Pascal Cévin, on a des fans du troisième lien comme auditeur parce que Nathalie nous écrit « J'espère que le maire Marchand va être pogné dans le trafic pour tourner à Québec pour qu'il devienne un partisan du troisième lien. » Pas faux, Nathalie. Vraiment pas faux. Parce que tu vois, demain matin, moi, je vais partir très tôt pour essayer de pas pogner le trafic pour aller à Davelioville en tournoi de hockey. Troisième lien, ça se bâtit, hein, Pascal? Ça prend des grands bricoleurs pour ça. Mais tu sais qu'il y a des plus petits bricoleurs. Puis ces plus petits bricoleurs-là, là, on les invite à aller chez Matériaux Audet Timbermark pour les grands projets de construction depuis 1946 ou les plus petits, comme toi, le bricoleur du dimanche. Et durant tout le mois de décembre, on va avoir des promos hebdomadaires avec des quantités limitées. Et cette semaine, c'est fou. C'est ma marque d'outils préférée, c'est les DeWalt. Vous repartez avec plus d'outils que vous en avez payé. Du 1er au 7 décembre, chez Matériaux Audet Timbermark, à l'achat du combo perceuse et visseuse à percussion atomique DeWalt, choisissez un produit gratuit parmi les quatre essentiels suivants. La ponceuse, l'aspirateur, la scie circulaire ou l'outil oscillant. Imagine-toi là, Pascal CV, moi, j'avais jamais fait de scie circulaire avant mes rénaux cette année. Je t'ai coupé à céramique comme si j'étais un pro. Pourquoi? Parce que j'avais une DeWalt dans les mains. Pas de DeWalt, pas de céramique dans ma cuisine. Bon, peut-être que ma blonde arrêterait de se plaindre à 4 heures du matin que quand je tire la chaise pour m'asseoir, ça fait puis qu'elle est en train de dormir. Mais je pense que la céramique a été bien faite quand même grâce à ma DeWalt. Fais vite, les quantités sont limitées. On vous attend dans nos deux magasins à Québec et à Saint-Marc-des-Carrières, puis restez à l'affût chaque semaine pour des meilleurs rabais. Matériaux Audet, complice de vos projets depuis 1946, livraison flexible et rapide. Matériauxaudet.ca.
Cet hiver.
On en jase à Boulevard 102-1. 13h16 exactement. Pascal, on s'en va dans un segment que moi et toi, on adore parce qu'on va aller parler avec notre chroniqueur à Montréal au 99.5, Rémi Villemeux.
Ouais.
Quand on jase avec Rémi, on dirait qu'on a toujours des conversations passionnantes.
Absolument. Et Rémi nous fait sortir de notre zone de confort souvent. Puis en même temps, c'est des conversations, je trouve, enrichissantes. Tu sais, ça ressemble un peu à des amis dans une taverne qui vont avoir des genres de sujets de conversation parfois un peu troublants. Ça, je vais toujours me souvenir des gens qui divorcent aux États-Unis pour finalement vivre leur vie d'amour avec leur robot et leur intelligence artificielle.
Oui, exactement. Tu as vu aussi ce matin dans le soleil celui c'est qui beaucoup vit l'amour avec les voitures.
Oui, moi, je me rappelais l'entrevue de Patrick Lagacé, puis j'avais tellement été... le malaise, là, dans cette entrevue-là, que j'avais demandé en vrai, tu as-tu cru, toi? Puis il m'a dit oui. Fait que ça existe encore plus
qu'on
pense.
Non, c'est ça, on a fait jouer un extrait ce matin, d'ailleurs. Alors, on va rejoindre Rémi Villemur. Rémi, est-ce que tu es amoureux de ta voiture? Ah!
Hey, j'ai même pas de voiture, moi. Moi, je suis un Montréalais, donc je fais tout à pied.
Bon, mais tu rates l'opportunité, comme le Yannick qui a été mentionné dans Le Soleil ce matin, puis vous attraperez la chronique de Judith Demel là, avec Gravel dans le retour tout à l'heure, parce qu'on va en là-dessus. Un homme qui aime beaucoup trop les hôtes de voiture.
Ouais, mais Jeff, je suis vraiment dans le malaise que tu as dit à Rémi qu'il manque l'opportunité de savourer les plaisirs charnels.
Il enlève son chandail, puis il se frotte sur le hood. Et on l'a même pris à également utiliser sa main sur un organe génital. Donc, j'arrête là. Retour de Gravel, si vous avez manqué ce matin dans Marceau le matin, tous les détails sur cet être humain très équilibré. Parlant d'équilibre, PSPP, l'as-tu perdu un peu hier, Grim? Hey, là, à plat ventrice, c'est une honte ce que Laurent Dubois a fait, c'est-à-dire de saluer l'arrivée de Mark Miller à titre de ministre de la Culture et de dire que ça prenait un homme de cette grandeur-là. Moi, un homme de cette grandeur-là, par exemple, ça m'a passé croche dans la gorge aussi.
Ouais, ben il y a comme deux sujets, là. Le premier, on va le régler tout de suite. Est-ce que c'était une bonne idée pour Paul Saint-Pierre Plamondon de faire cette sortie-là alors qu'il traverse présentement une phase inédite dans la vie politique de quelqu'un? Il a besoin de rien faire, puis il monte dans les sondages avec ce qui se passe au AQS, puis chez les libéraux et à la CAQ. Il n'a rien besoin de faire. Il serait mieux de rien dire que ça serait mieux pour lui. Donc ça, je dois l'avouer. Là. Je peux pas... c'était pas une bonne idée de dire ça. Après... Là, et c'est ça qui devrait nous préoccuper, puis je veux dire, je pense que les gens s'y préoccupent à moitié, c'est-à-dire, est-ce que c'est vrai ou pas ce qu'il a dit? Avant que je vous réponde, juste rappeler une chose, là, parce qu'il y a plein de gens qui sont hypocrites en ce moment, qui disent, par exemple, il s'en est pris aux artistes. Il s'en est pas pris aux artistes. Il s'en est pas pris aux artistes. Il s'en est pris à des gros joueurs de l'industrie culturelle. Il s'en est pris, et il a nommé personne, soit dit en passant, mais on sait tous de qui il parle, de l'UDA, de la DISC, la SARTEC, la QPM, donc des associations de décideurs. des gens qui ont peut-être été des artistes, mais qui ne devaient pas se sentir visés parce qu'ils étaient des artistes, ils devaient se sentir visés parce qu'ils sont des décideurs et qu'ils ont pris une position au nom de leur organisation à la suite de la nomination de quelqu'un qui, oui, et c'est là qu'entre la deuxième hypocrisie, a refusé de reconnaître le déclin du français. Parce que là, j'ai entendu toutes sortes de choses. J'ai entendu du monde citer les propos de Mark Carney. Il n'a pas dit que ça n'existait pas. Il a dit qu'il était tanné d'en parler. On ne parle même pas de ces propos-là. On parle des propos qu'il a tenus en octobre 2023, lorsqu'il a été interpellé par Mario Beaulieu du Bloc québécois à la Chambre des communes. Mario Beaulieu s'est levé en chambre, lui a dit « Est-ce que vous reconnaissez le déclin du français? » Et Mark Miller a commencé à dire « Écoutez, je reconnais que le français est menacé constamment. » Puis il a dit « Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un déclin du français? » Il a reposé la question. Quand vous demandez à quelqu'un « Est-ce que le ciel est bleu? » et que la personne vous dit « Le ciel est clair, le ciel est dégagé, je peux voir à travers. Le ciel est-tu bleu? Oui ou non? » Si la réponse, c'est pas oui ou non, mais vous êtes en droit de dire la personne a reconnu ou pas le déclin du français.
Si tu permets, Rémi, on va aller réécouter cette hésitation de Mark Miller à la question de Mario Beaulieu.
Est-ce que vous...
Pascal, est-ce que ça va bien? Je pense que je vais me poser des questions que ça va pas bien.
Mais c'est parce que j'ai l'impression que personne ne veut vraiment se prononcer là-dessus en se disant que ça va ouvrir un débat politique, mais en fait, c'est juste des faits. C'est juste de reconnaître quelque chose à un moment ou à un autre, puis après, tu décides ce que tu en fais. Mais est-ce que ça, c'est un débat dans la vie? Moi, je suis d'accord avec Rémi là-dessus. Là. Tu peux tourner autour du pot, sauf qu'après, tu réponds pas pourquoi, juste pour pas avoir un débat politique parce que ça te tente pas, puis c'est pas le point en ce moment, puis c'est pas la politique prioritaire.
Oui, puis là, ce qui est arrivé, c'est que le milieu culturel ne savait pas ou avait oublié que Mark Miller, c'était cet homme-là qui avait hésité à l'époque. Donc là, on a eu l'UDA. Moi, je salue, par exemple, la réaction de l'UDA. L'UDA apprend que Mark Miller est nommé ministre de la Culture, dit « on est content, on va pouvoir lui parler ». Ensuite, Mark Miller dit « je suis tanné d'entendre parler du déclin du français » et l'UDA retire sa publication. Il dit « écoutez, là, non, nous, on n'est pas content que quelqu'un qui est tanné d'entendre parler du déclin du français soit nommé ministre de la Culture ». Au pays, là où la culture du Québec, la culture québécoise est toujours en péril parce qu'elle se berce sur un continent de 400 millions d'anglophones. Donc là, le vrai sujet, c'est est-ce que les décideurs du milieu culturel au Québec, pas les artistes, les décideurs n'ont pas oublié que leur mission, au-delà de leur mandat, parce qu'ils ont un mandat, c'est de promouvoir, de créer de la production, des productions québécoises, mais leur mission, est-ce qu'ils n'ont pas oublié que c'est de se battre pour la culture québécoise. Quand on se bat pour de la culture québécoise, je ne vois pas comment on peut saluer l'arrivée de quelqu'un qui la méprise, parce qu'il méprise le fait qu'elle est en déclin, il n'est pas capable de le reconnaître. Donc, moi, c'est là où je défends pas Saint-Pierre Plamondon. Je trouve qu'il a le courage de dire quelque chose qui est vrai, qui fait mal aux oreilles, parce qu'il y a toutes sortes de... On parle d'heures, et là, ensuite, on dit, ah, oh, il se sépare du milieu culturel, il nuit à l'autobus du oui. Écoutez, la preuve que c'est un homme intègre, c'est qu'il prend ce risque-là. Bien sûr que c'est un risque. J'ai commencé en vous disant qu'il n'aurait pas dû dire ça. Ça, c'était de ma façon de dire comme analyste politique. Je porte le chapeau d'un analyste. Je vous dis, c'est un risque inutile, c'est trop facile. Mais il a pris ce risque-là parce qu'il a choisi l'intégrité et il a choisi de mener des combats qui sont nuisibles parfois pour sa réputation, celle de son parti.
Ouais.
Donc, on n'est pas obligé. Des fois, on peut reprocher aux gens d'avoir plus de courage que nous, mais c'est plus humble de garder le silence, pas d'insulter ceux qui ont plus de courage que nous. Moi, je m'ennuie beaucoup de Pierre Falardeau.
Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Puis il y a une affaire que je veux toujours défendre par rapport à Paul Saint-Pierre Plamondon, moi qui me déçoive à un moment donné là-dessus. Mais il dit réellement ce qu'il veut faire, ce qu'il pense, puis qu'est-ce qui est important pour lui depuis le début. Que ça le fasse baisser dans les sondages ou pas, que ça fasse des chicanes, qu'il perde des gens qui voudraient voter pour lui ou autre. Il décide, qu'il dit la vérité, il est transparent. Et ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup en politique en 2025. Puis on se fait avoir, puis après ça, on chiale quand on vient d'élire un parti qui a manqué de transparence. Donc, s'il y en a un qui peut être transparent en ce moment... Bien, au moins, on va avoir voté en toute connaissance de cause. Puis, il ne pourra jamais se faire ramasser dans le détour après.
Oui, puis je vous fais écouter ce que j'ai beaucoup aimé de son entrevue hier à Radio-Canada où il parle qu'il est conséquent. On écoute ceci.
Donc?
C'est une question de cohérence. Puis, je pense que c'est ce qui fait en sorte que Paul Saint-Pierre Plamondon est apprécié à l'heure actuelle et qu'il est haut dans les sondages. Donc, à la question, est-ce qu'il aurait dû le faire de façon politique? À 39 % peut-être pas. Mais d'un autre côté, Caroline, je réfléchis à voix haute avec vous autres. Le monde aime ça?
Ben, le monde, on verra là, dans le prochain sondage. Moi, je pense que ça n'aura aucun effet. Là. J'ai lu quelqu'un ce matin, je ne me rappelle plus de son nom, mais je pense que c'est mon ami Nick Payne, qui est chroniqueur à Montréal, qui a dit « C'est chaque fois pareil avec Paul Saint-Pierre-Plamondon. Il lance quelque chose dans l'air, ça dérange certaines personnes, et le temps fait son travail, le temps passe, et on finit par se rendre compte de quoi? Ben, qu'il y avait en partie... »
Moi qui avais en partie raison. Là, on s'excuse, Rémi, on t'a perdu un petit peu.
Ouais, yes. En tout cas, au Québec, il a été parmi les premiers à parler de seuil d'immigration. Mmh. Aujourd'hui, c'est rendu que tous les partis s'entendent à l'Assemblée nationale pour les baisser. Il a été parmi les premiers à parler d'entrisme religieux à l'école. Ben, aujourd'hui, personne n'est capable. Même les libéraux disent, dénoncent ça. Donc, est-ce que c'est quoi la prochaine étape? C'est peut-être que tout le monde s'entende pour dire que les décideurs doivent honorer leur mission et oublier des fois leur mandat. Leur mandat, c'est de produire de la culture au quotidien. Leur mission, c'est de se battre pour la culture québécoise. Puis quand on se bat avec des gens, il faut reconnaître qu'on a des fois face à nous, c'est plate à dire, mais quelqu'un qui est ennemi à nos intérêts. Et Mark Miller, je regrette, mais c'est un ennemi aux intérêts de la culture québécoise.
J'aime bien la différence que tu fais justement entre la mission et le mandat. Puis souvent dans le mandat, bien, on pense un petit peu trop aux subventions et aux signes de pièces. C'est ce qui explique Exactement. Qu'on est très flatteur envers les politiciens. Rémi, il reste quelques minutes. Je veux que tu m'expliques ta théorie sur Québec solidaire. Parce que hier, avec le sondage le jeu, bon, on a décortiqué la montée du PQ, la baisse des libéraux, la stagnation de la CAQ et du Parti conservateur. Mais là, surprise, Québec solidaire, que 5e à 8 % et resté à 8 % malgré le fait qu'ils ont vécu une crise avec un Vincent Marissal qui s'est présenté à Tout le monde en parle, puis qui a dit à quel point ce parti-là était plus gérable. Comment ça, ça reste à 8 %
Ben, j'ajouterais juste avant de t'expliquer qu'il y a aussi cette espèce de petite controverse entourant la fausse couverture de livres. Là,
oui. Hein,
où on mettait en scène Paul Saint-Pierre Plamondon puis on le traitait de raciste. Donc moi, j'aurais
C'est
pensé
vrai.
Que ça aurait nui à Québec solidaire, mais ils conservent tous leurs points de pourcentage, toutes leurs plumes, parce que je pense qu'on a atteint à Québec solidaire un plancher. On ne peut pas descendre en bas de 8. Il y a véritablement au Québec 8 % de la population qui est solidaire au programme de Québec solidaire. Et là, la réflexion qu'il faut entamer désormais, puisqu'on se rapproche de 2026 et d'un horizon référendaire, c'est le Parti québécois n'est peut-être plus capable d'aller chercher des gens à Québec solidaire. Peut-être que tout ce vote-là qui était prenable à gauche, OK, il est allé le chercher. Et quand on fait une coalition, ça prend du monde de gauche, ça prend du monde du centre, puis ça prend du monde à droite. Donc, est-ce qu'il y a peut-être maintenant qu'on sait là, que malgré toutes les controverses qui se sont accumulées en 2025 pour QS, on sait que ça ne descendra pas. Peut-être que c'est le moment pour Paul Saint-Pierre-Plamondon d'aller chercher des gens à droite. Et là, je ne parle pas de droite identitaire, je parle d'une droite économique. Hein, celle que convoite aussi Éric Duhaime, celle que convoite de plus en plus d'ailleurs François Legault.
Oui, en effet, puis je suis étonné de toujours voir Éric Duhaime fermer la porte à ce fameux camp du oui-là, alors qu'on sait que Mario Dumont l'avait franchi, cette porte-là.
Oui, mais Éric Duhaime, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un être humain de très grande qualité, mais il change beaucoup d'avis. Donc, moi, je ne serais pas vraiment surpris que dans un an, il soit ailleurs sur cette question-là. Et je serais mais aucunement surpris que dans 2 ans, il soit complètement ailleurs sur cette question-là aussi. Donc, laissons le temps au temps.
Exactement. Rémi Villemur, c'est toujours un plaisir de te parler à chaque mardi et jeudi aux alentours de 13h, 13h15. Merci, mon ami. Passe un excellent week-end et on se parle mardi prochain. Bonne émission ce soir sur les ondes du 99.5 Montréal.
Merci à vous deux. Bye-bye.
Salut, Rémi Villemur, que vous pouvez entendre du lundi au jeudi au 99.5 Montréal de 18h à 19h et le samedi matin de 8h à 10h. Donc, si vous êtes dans les environs de Montréal, syntoniser le 99.5 Montréal. Si vous êtes là le matin aussi, syntoniser Mario Dumont parce qu'il est en train de te faire toute qu'une remontée dans les sondages.
Mais là-bas. L'avantage quand même, c'est l'application Boulevard parce que peu importe t'es où, tu peux nous écouter.
Ça, c'est vrai aussi. T'as raison. Qu'est-ce que je fais là, vanter Montréal, moi? Ça doit être parce que Pascal s'est vu. J'ai perdu la tête avec Cole Caulfield hier.
Voilà Caulfield en marche. Long détour en territoire des Jets. Il revient devant le filet. Caulfield fin. Tire! Dès qu'il fait bouger Comrie, l'ouverture entre les jambières et aura la glace. Caulfield en profite.
Maudit Cole Caulfield. Il m'a fait oublier qu'on faisait de la radio à Québec puis que j'aimais les Nordiques. Là. Qu'est-ce qui se passe là, Pascal? Victoire du Canadien hier, 3-2 en tir de barrage sur les Jets de Winnipeg. Après la défaite gênante de 5-2 face aux sénateurs d'Ottawa, ça a fait du bien aux partisans. Et Cole Caulfield, après le match, Pascal, en entrevue, parce que la première étoile du match, quand le Canadien gagne à domicile, fait toujours une entrevue sur la patinoire avec Marc Denis, qui est le collègue de Pierre Roud. Et là, on entend l'entrevue dans le Centre Bell. Et il a dit aux partisans, on vous en devait une après le match d'hier qu'on a joué. C'est inacceptable qu'on vous ait offert ce spectacle-là.
Wow!
J'aime ça, moi.
Hey, super discours, en fait, qui allume même les feux des partisans qui étaient peut-être éteints pour certains.
Exactement, j'aime ça, un jeune joueur comme ça qui a à cœur.
Il a quel âge déjà, lui?
Cole Caulfield doit être rendu à 23 ans, selon moi, 22 ou 23 ans. Donc,
24, OK, 24,
et voilà. Ouais. Alors oui, un excellent marqueur là, pour le Canadien de Montréal. Prochain match du Canadien, samedi à Toronto contre les Leafs. C'est dimanche, ils reçoivent les Blues de Saint-Louis à Montréal. Gros match de football ce soir, Pascal, qui va impliquer notamment sa carrière. Here's a fake. Goff can't find anyone else. Throws and it's caught for a touchdown. Isaac Tesla, the rookie. Les Cowboys de Dallas vont visiter les Lions de Détroit. Les Lions qui ont perdu la semaine dernière, jeudi dernier au Thanksgiving contre les Packers. Donc, ils ont 7 victoires et 5 revers. Et du côté des Cowboys, on est à 6 victoires, 5 revers, un verdict nul. On est sur une séquence de 3 victoires consécutives. Et là, contre toute attente, quand on regarde le classement, Pascal, les Lions de Détroit, à l'heure actuelle, ne sont pas dans les séries éliminatoires.
Je trouve que ça représente très mal la saison.
Ben oui, c'était la meilleure équipe l'an passé de la Conférence nationale. C'est pas terminé parce que c'est très serré dans leur division, mais une défaite contre les Cowboys leur ferait très mal. Puis les Cowboys aussi, c'est pas mal ce soir que ça passe ou ça casse pour les éliminatoires avec leur dossier. Donc, ça va être un match très intense, très important ce soir à Détroit. C'est à 20h15, donc amateurs de football, ne manquez pas ce match-là. Il va y avoir beaucoup de points qui vont se marquer, ces deux excellentes offensives, donc il va y avoir énormément de points qui vont se marquer. Je termine les sports, Pascal, avec une petite nouvelle pour toi.
Oui.
Ça a sorti hier. La patinoire pour les Jeux olympiques en Italie va être 3 pieds moins longue. Ils se sont trompés. Ils ont bâti une aréna pour les Jeux olympiques. Ils ont dit, nous autres, au lieu de faire une glace de grandeur olympique, donc plus grande que celle de la Ligue nationale, on va la faire grandeur Ligue nationale parce que les joueurs de la Ligue nationale viennent. Mais finalement, elle est 3 pieds moins longue.
Mais là, est-ce qu'il va falloir qu'ils recommencent ou on va ajuster? Parce que souvent, ça, c'est dans les livres. Il faut que tu calcules exactement ce que c'est.
Non. Ils ont,
c'est super conforme.
Le comité olympique a annoncé que, écoutez, les joueurs de hockey, la glace va être 3 pieds moins longue.
OK, fait donc ils acceptent que ça se passe comme ça.
Fait qu'on va revivre des moments qu'on avait déjà vécu. Parce que jadis, dans la Ligue nationale de hockey, chaque aréna était responsable de la dimension de sa patinoire. Donc, normalement, pas mal tous les arénas avaient la dimension standard. Mais à l'époque, à Boston et à Chicago, la patinoire était plus petite. Et là, on disait toujours que c'était des matchs plus physiques parce que les patinoires étaient petites, les joueurs étaient plus en contact homme à homme. Fait qu'on disait toujours, quand tu vas jouer à Boston et à Chicago, lève-toi la tête parce que
tu vas te faire frapper.
Oh, exactement.
Tu vas te faire rentrer dedans.
Mais là, j'ai hâte de voir ce que ça va amener pour les sélections olympiques parce qu'en sachant que la patinoire est plus petite, est-ce que tu vas amener des joueurs plus physiques?
OK, ça pourrait changer à
ça
ce
pourrait
point,
changer.
Ce
il y a un Tom Wilson, un joueur des Capitals de Washington, qui a un excellent début de saison, une quinzaine de buts. C'est un joueur très physique, 6 pieds 4. Et il a fait très mal aux Canadiens dans les séries l'an passé. Et là, il frappe à la porte d'équipe Canada. Tu sais, on s'en demande, on va-tu l'amener?
Combien de moins 3 pieds, t'as dit?
6 pieds 4
6 pouces. 6 pieds, hey, c'est énorme quand tu y penses.
Exactement, oui. Puis c'est un 245 livres. Oh, tu sais, c'est moins 3
pieds. Par réflexe, ces gars-là et ces filles-là, peu importe, ils sont habitués quand même de patiner sur ce 6 pieds plus.
Exactement.
Là, sans le calculer. C'est quelque chose qui est imprimé dans leur tête.
C'est ça. Alors, ça va être très intéressant de voir les sélections, ce qu'on va amener des joueurs plus physiques. Il y a Mark Scheifele pour les Jets de Winnipeg. Il a un but, une passe à Montréal. Un grand joueur de centre de 6 pieds 4 aussi. On se disait, lui ou le jeune Macklin Celebrini, tu comprends?
Ouais.
J'ai bien hâte de voir comment qu'on va manœuvrer.
Ça.
C'est une information, cependant, qui tombe avant la sélection des équipes, donc qui tombe à bon point. Parce que, imagine, tu arrives aux Olympiques, là, tu fais, hein, 3 pieds de moins? Oh, bye-bye, qu'est-ce qu'on fait là?
Là, tu t'auras dit 3 pieds.
Oui, c'est 3 pieds. Tom Wilson mesure 6 et 4. La patinoire est 3 pieds de moins.
Okay,
j'avais mal compris ta question.
Pieds.
Exactement.
Okay, bon.
Fait que 3 pieds de moins pour la patinoire.
Bon, parce que 6 pieds, je trouve que
c'était... Ouais, 3 pieds de moins pour la patinoire. Donc, ça va être la patinoire olympique. Le tournoi olympique qui commence, si je me souviens bien, là, je vais de mémoire, le 12 février pour le Canada contre la République tchèque.
Ça peut jouer sur les performances de tout le monde. C'est ça capoté, ça, à quel point les détails, on n'y pense pas. Tantôt, je te parlais d'une nouvelle politique comme quoi Carney va rencontrer Trump demain. Donc, mais ça va se faire en marge d'un événement sportif. Donc, peut-être faire le petit clin d'œil que tu as fait tantôt parce que événement de la FIFA et on va proposer, en fait, de grandes conversations politiques, peut-être pas, mais du moins quelques échanges entre les présidents. Puis Carney a sauté là-dessus. Alors, le président américain qui menace de se retirer de l'accord commercial, vous le savez. Et là, il y a des chefs d'entreprise américains aussi qui défendent l'accord commercial dans une audience à Washington aujourd'hui. Alors, demain, ce sera la rencontre entre Mark Carney, premier ministre du Canada, et Donald Trump, s'il ne change pas d'avis. Et ça va se faire au tirage au sort de la Coupe du monde de la FIFA à Washington.
C'est demain, 10h30, que se déroule ce tirage au sort-là. C'est simple, la Coupe du monde va se dérouler dans 3 pays. C'est une Coupe du monde, Amérique du Nord, Canada, États-Unis et Mexique. Donc, le Canada, les États-Unis et les Mexiques sont déjà classés dans des groupes. Et là, on pige parmi, il y a 4 bouliers, puis là, on pige les équipes qui vont se retrouver avec eux. Le Canada pourrait, dans le meilleur des mondes, se retrouver avec la Jordanie, le Cap-Vert et le Ghana. C'est des équipes classées 66e, 67e et 72e au monde. Le Canada, on est 27e. Mais dans le pire des cas, on pourrait se retrouver avec l'Italie, le Danemark puis la Turquie. C'est les 12e, 21e et 25e au monde.
Plus forte.
Plus forte. Fait que tu vois comment ce tirage-là va être énorme et très important pour le Canada. Le tournoi pour le Canada va se débuter le 12 juin prochain au stade BMO Field de Toronto. Donc, et là, par la suite, le Canada va jouer également un match à Vancouver. Donc, on fait un peu le tour du pays. Même principe pour l'équipe américaine et l'équipe mexicaine. Alors, c'est à suivre demain, 10h30, le gros tirage de la Coupe du monde de foot, si je veux prendre l'expression française. Et est-ce que Mark Carney et Donald Trump vont en profiter pour prendre un petit café puis régler un ou deux tarifs?
Je ne sais pas comment ça va se faire, mais j'ose croire que oui, parce que ça commence à coûter cher à nos entrepreneurs. Il y en a qui sont en train de perdre leur business puis qui ont décidé de continuer de faire affaire au Canada et de résider en sol canadien il y a quelques années, aux dépens d'avoir une usine américaine. Puis ils se font pas mal manger la laine
sur le dos. Ils se font manger la laine sur le dos. Ça va très mal. Là, à Syrie, là, dans le coin de Hamilton, là, justement, qui a fermé ses portes. Là, mais au-dessus de 1000 emplois perdus encore une fois en Ontario. On fait une courte pause à l'émission On en jase. Par la suite, on fait un petit tour d'actualité. Puis...
Un petit tour d'actualité, mais je veux te parler d'un sujet qui est un peu sous la couverture. Depuis 2 jours, c'est sorti. Netflix, je pense que beaucoup consomment ce qui est sur Netflix, va changer la façon de vous offrir du contenu. Puis attention, on devient de plus en plus mercantile. Plus tu décides d'économiser, en fait, puis d'aller chercher ton abonnement avec pause publicitaire et tout ça, plus tu vas être pénalisé.
Ah ouais, plus on va être pénalisé.
Oui.
Puis là, ils vont-tu m'offrir juste des films de Noël, vu que Val écoute juste ça? Là,
des films de Noël avec des acteurs dont on n'a jamais entendu parler, peut-être.
Ah oui, c'est ça que je vais avoir. Là. Ça veut dire quand je vais m'asseoir samedi soir là, avec Val, une petite coupe de vin à main, ils vont nous passer 800 pubs, puis je vais avoir un sapin de Noël.
Bande-annonce et un film que tu sais comment il va finir quand tu commences à l'écouter.
Oh, shit! Je veux pas que tu me parles de ça. Non, c'est pas vrai. On parle de tout ça à l'émission d'En Jase après cette courte pause sur Boulevard 102. Faut absolument que vous alliez voir les reproductions miniatures. Plus de 3000 à Ludovica Mini Land. Ça se passe à Laurier, Québec. C'est une exposition qui fait les quatre coins du globe depuis plus de 15 ans. Et c'est ici à Québec, présentement, à Laurier, Québec. Ludovica Miniland, c'est simple, là. C'est la reproduction gigantesque, parfaite de la ville de Paris. C'est une collection qui n'a d'égal que son ampleur. On déploie des bâtiments et des monuments célèbres sous vos yeux en un panorama époustouflant que vous ne risquez pas d'oublier. Faites le tour du monde dans le plus grand parc de type Legoland en Amérique, Ludovica Miniland. Ça se retrouve présentement à Laurier, Québec. Et pour en savoir plus, ludovica.ca.
Ortec Environnement.
L'émission d'En Jase qui tire déjà sa fin à 13h45. Ça passe beaucoup trop vite, ce show-là, Pascal Séva. Moi, on ferait 3-4 heures de radio avec toi.
Une heure du dîner qui va vite. Mais tu sais, sérieusement, on nous a servi de la nouvelle depuis l'automne, là, comme presque jamais j'ai connu.
Hey, je parlais avec Martin Dallaire ce matin, qui anime le matin à notre station-sœur à week-end, puis il me disait « Hey Jeff, te rends compte? Dans deux semaines, on est dans le temps des fêtes. Il dit, me semble que cette session de radio-là vient de passer comme une tonne de briques. Puis j'ai dit, c'est vrai, puis le week-end, ils font moins d'actualité que nous. Là.
Oh,
puis
oui.
Il dit, ça a passé comme une tonne de briques. Il dit,
il y a quelque chose là-dedans.
Puis Martin, on s'entend, il fait de la radio depuis 30 ans. Là. Fait que pour qu'ils me disent, okay. Je n'ai pas vu passer la saison.
On est tous dans le même bateau, alors.
C'est ça. Tu sais que toi, ça fait une dizaine d'années que tu as fait. Moi, ça fait 3-4 ans. Tu sais que nous autres, on soit encore étonnés par la vitesse, ça va. Mais que Martin Dallaire me dise, Jeff, ça a passé bien trop vite.
Ça en est une spéciale.
Arrête-moi ça. En passant, Isabelle te fait dire qu'à Novo, là, en 10 minutes, tu sais que les films sont finis. Il y en a plein, ça. Il y en a une dizaine.
Ah,
aussi.
Les films où on devine ce qui va se passer à la fin dès les premières minutes.
Ah, oui. Moi, quand j'écoute un petit film comme ça avec Val, ma conjointe, je suis toujours. T'es après 2-3 minutes, je dis penses-tu qu'ils vont se frencher à la fin?
Moi aussi, je force les miens à écouter ça. Je trouve que c'est un bon vide-tête.
Mais tu sais quoi? J'adore ces films-là.
C'est tellement
je
fun.
Me mouille, là, je les adore. Comme je disais, on est le samedi soir, on vient de se faire un bon souper, on a encore une petite coupe de vin à la main.
Tu peux t'endormir dessus,
ah,
Jeff.
Ah ouais, puis Val,
sans scrupule.
Val me dit, hey, check ça, une petite heure et 25, après ça, on pourra aller se coucher. Oui, Val, on s'assoit, on regarde les petits films de Noël où c'est sûr qu'à la fin, ils se frenchent, puis la vie est belle, mais... Ça fait du bien au cœur aussi.
Ben oui, puis tu sais, avec des acteurs qu'on connaît pas vraiment, puis qui jouent pas nécessairement toujours très bien. Un synopsis tiré par les cheveux qui font rêver les jeunes adolescentes.
Enfin,
écoute,
ça
en prend de la romance dans notre temps des fêtes.
Ben oui.
Souvent, c'est bien plus le fun avant que pendant. Ouais. Pendant, c'est vraiment le fun, mais ça passe aussi vite que notre automne.
Mais là, tu me disais que Netflix va... C'est quoi, là? Ils vont mettre des bâtons dans les roues de ma romance? Qu'est-ce qui se passe?
Je comprends un peu pourquoi ils le font. C'est une, t'sais, je veux dire, c'est une entreprise qui veut faire de l'argent. Puis on a comme, au départ, été super dans l'engouement que Netflix nous offre pas de publicité, nous offre du contenu, ancré même, avec des séries super intéressantes à moins de 20 $ Initialement, ça coûtait 7-6 $ pour l'abonnement Netflix.
En effet.
Et plus les années avançaient, plus on avait du bon contenu. Ça coûtait cher le produire, ils ont augmenté les prix, puis ils ont même fait des abonnements différents en disant « Ah, OK, parfait, nous autres, on va accepter de la publicité, mais si toi, tu l'acceptes comme utilisateur, tu vas payer moins cher. Si ça ne te tente pas, reste au tarif que tu connais, mais tu n'auras pas de publicité. » Par contre, Netflix a changé sa politique, va changer sa politique dans plusieurs, et la plupart même des cas. Les contenus vont changer sur votre plateforme. Si vous faites partie de ceux qui toléraient les publicités, ça veut dire que vous payez le montant le moins cher.
Ouais, c'est pas notre cas, là. Moi, c'est Val
moi,
qui
c'est
gère
mon
ça.
Cas.
OK, moi, c'est pas notre cas, là. À l'heure actuelle, en tout cas, non, j'en vois pas
moi,
publicité.
Moi, une pub ici et là, ça me dérangeait pas du tout parce que de toute manière, j'ai un sacré petit problème que j'essaie de régler, mais souvent, j'écoute pas la télé sans être sur mon cell. Là, je fais partie de ce monde-là, puis ça m'énerve.
Hey, moi aussi, à ça, je m'en vais le porter loin pour être
niaiseux,
attentif.
Je retourne en arrière 155 fois. Pendant
non, mais c'est
une série.
Tellement niaiseux. Des fois, moi, j'écoute le sport, je suis en train de taponner sur mon sel aussi. Là, il y a un but. Là, je fais comme, hey,
manqué,
il y a un but. Qu'est-ce que c'est pour ça? C'est un super beau but. Je fais, voyons donc.
Au lieu d'une heure, ça t'en prend trois.
Moi, vois-tu, c'est les plateformes numériques de musique que les publicités ne me dérangent pas.
Ah,
je suis pas abonné à rien.
Vois-tu, moi, ça me dérange.
Bah, vois-tu, moi, c'est ça qui me dérange pas. Deux petites tonnes, une petite pub, ça me dérange pas.
Non, moi, faut pas que tu casses mon vibe musical, ma danse du dimanche en faisant le ménage. Non, pas du tout. Par contre, justement, sur ces plateformes-là, ça me dérange pas. Mm-hmm. Donc, on est deux cas différents. Mais Netflix met fin à la diffusion depuis les téléphones vers la majorité des téléviseurs. Puis ça, j'entendais même l'équipe du Retour en parler dernièrement, comme quoi, eux, ils regardent beaucoup les émissions sur leur cellulaire, les jeunes. Mm-hmm. Les jeunes à Denis Gravel, Audrey Pinchot disait qu'elle faisait
mes
ça.
Mes ados font ça à côté.
Parce que c'est leur écran.
Oui.
Tu sais, dans le temps, nous autres, avant d'avoir une télé dans la chambre, là, ça prenait un viage de temps. Oui. Tu sais, la TV, un, cathodique, elle rentrait pas partout. Puis deuxièmement, c'était vu comme un divertissement qui coûtait très cher. Donc, c'était au salon que ça se passait.
Clairement. Moi, je croise Elliot avec ses écouteurs dans les oreilles parce qu'ils ont pas mal tout le temps. Puis à ça, je lui demande quelle série tu es en train d'écouter.
Sur son cellulaire.
Sur son cell.
Auparavant, c'était plus un appareil de communication. Là, c'est vraiment un divertissement complet. Et il y a plusieurs médias, dont The Verge et Arts Technica, qui ont rapporté que ça va être comme ça maintenant. Donc, on va retirer la possibilité d'écouter les séries de Netflix sur le téléphone cellulaire si tu ne paies pas l'abonnement plus cher. Ça, c'est particulier quand même parce qu'à partir d'appareils cellulaires, plusieurs l'utilisaient aussi comme Chromecast. Vers les télés intelligentes, vers les télés Google et tout ça. Donc, les abonnés au forfait avec publicité peuvent donc plus diffuser du contenu de leur téléphone vers d'autres appareils. Il va falloir payer la somme la plus élevée. Il n'y a pas vraiment d'information officielle qui a été fournie par Netflix pour justifier un peu le changement, autre que ce qu'on peut lire entre les lignes, payer, mesdames et messieurs. En 2019, la plateforme avait supprimé la prise en charge d'AirPlay. Si vous la cherchez encore, c'est ça qui s'était passé. Mais on commence tranquillement à voir l'étau se resserrer dans tout ce qui est plateforme numérique de ce monde. La compétition aussi a augmenté. Hein?
Oui, exactement. Donc, on n'a pas le choix aussi. Ils n'ont pas le choix d'augmenter leur budget de production. Oui. Donc, il faut qu'ils aient cherché des revenus ailleurs que l'abonnement parce qu'aussi, il y a tellement de compétition entre les plateformes.
Oui.
Et là, tu me corriges, je me trompe, que si moi, j'arrive puis je mets des abonnements à 40$, ben, tu sais, exemple, je suis Netflix, je vais me tourner, les consommateurs vont se tourner vers un Crave, un Disney Plus de ce monde.
Il y a beaucoup de gens que j'entends maintenant dire, puis j'entendais moins au début, là, qui s'abonnent pour un mois. Mettons, un mois de Netflix parce qu'ils veulent voir telle série, ils attendent qu'elle
sorte. C'est vrai.
Puis se la tapent d'une shot, en fait. Ils sont capables d'être plus patients. Puis l'autre mois d'après, ça va être Disney+, par exemple.
Parce que là, il y a une bonne série sur Disney+.
Exactement. Mais ils vont s'être désabonnés de Netflix. Après ça, ça va être Crave. Après ça, etc., etc.
Je me rends compte que je suis vraiment trop fidèle envers Netflix.
Probablement.
Non, mais c'est vrai, moi, c'est la seule plateforme que j'ai.
Tu te conserves?
Oui, que j'ai Netflix, puis... C'est fort simple, c'est que j'ai pas tant le temps que ça d'écouter la TV. Fait que je me dis, je commencerai pas à payer pour trois plateformes différentes en me disant, OK, moi, la meilleure série est là. J'ai Netflix, il y a du contenu super adapté pour moi. J'aime ça. Puis j'ai Netflix aussi en raison de la lutte qui est maintenant rendue sur Netflix pour moi et mes garçons.
Bien, ça, je trouve que c'est une idée extraordinaire, mais vous me fascinez, par exemple. Vous n'écoutez plus des choses en live, mais quand une plateforme de diffusion comme Netflix vous offre des choses en live, c'est une révolution.
T'as donc bien raison.
Tu sais, quand on a amené la lutte, quand on a amené... Je sais qu'il y avait des événements spéciaux.
Il y a du football. Les deux matchs de la NFL du 25 décembre sont sur Netflix.
Puis là, c'est redevenu un rendez-vous? Point d'interrogation? Maintenant, vous tripez à vivre ça en live avec votre monde puis des gens qui sont pas dans la même chaumière que vous pour que vous puissiez vous écrire pendant, justement, certains moments. Je comprends. L'humain est fascinant.
Oui, c'est vrai que l'humain est fascinant là-dessus. Puis là, je pense à mon frère qui, lui, est un fan des Browns de Cleveland au football puis que va toujours commencer à écouter le match vers 2h de l'après-midi pour sauter publicité. Mais le 25 décembre va être assez avec moi et il va regarder les matchs.
Quelqu'un qui dit « Ça commence à ressembler à quand j'ai quitté le câble, la facilité d'augmenter les prix au lieu d'être novateur, compétitif. Netflix achève peut-être dans mon cas aussi. » Est-ce qu'on a arrêté justement de voir plus loin, de penser en dehors de la boîte pour attirer les gens
non
justement essayer de les faire payer plus avec une restriction de possibilités?
Est-ce que ça va amener un retour en arrière? Quand je pose cette question-là comme ça, je la lance en l'air parce que on voit beaucoup de choses, là, je vais prendre ce terme-là, vintage réapparaître. Autant vestimentaire que dans des habitudes. Alors là, est-ce que le câble va revenir? Est-ce que ça va être la revanche du câble un jour qui va dire « Hey, allez plus ces plateformes, ils vous chargent bien trop cher. Regardez, nous autres, les postes qu'on a, je pense pas. »
C'est très, très cher encore, le câble. Puis il y a moins de production, puis on sait qu'on en arrache. Mais ce qui devient populaire aussi, c'est tout ce qui est un peu craqué. Là, tu payes 200$, puis tu as une panoplie de chaînes télévisuelles au bout d'une petite manette qui a été faite par des gens qui sont capables de jouer avec la technologie. Écoute, il y a des séries maintenant qui se retrouvent et des qui se retrouvent rapidement sur ces craqués-là, des chaînes craquées.
Oui.
Puis des films même au cinéma.
Vraiment.
En temps réel, qui sont sur ces applications-là, qui sont quand même assez légales, pour 200$ par année.
Tu sais ce que j'avais déjà fait dans le temps? Ça, là, c'était la première... C'était peut-être la première vague d'utilisation frauduleuse.
Oui.
C'était dans le Chinatown à New York. Les gens allaient au cinéma, filmaient l'écran de cinéma d'un nouveau film, puis ils le revendaient.
Ça devait être épouvantablement laid, les images.
Ben oui, fait que moi, je me retrouve dans le Chinatown et je dis, tu sais, moi, naïf pour deux scènes, je dis à ma blonde de l'époque, « Hey, check donc ça, je me souviens plus les deux films. » Ça me semble qu'ils sont au cinéma, ces films-là, puis eux autres, ils les ont en DVD. Fait que 10$ à madame, pogne les DVD, on s'installe en revenant de New York chez nous. Je dis, hey, chérie, on va écouter le film, on se rend compte que c'est filmé, mais genre, filmé de la 18e rangée, là. Tu vois les têtes?
Toi, t'as voulu acheter des affaires légales, paye mon fortin.
J'étais parti à rue, j'avais dit à Mel, ma blonde de l'époque, j'ai dit,
t'as-tu encore ça?
Non, je pense pas.
Non.
Je pense qu'à un moment donné, dans un déménagement, j'aurais dû garder
ça. J'aurais été intéressé, moi,
j'aurais dû garder
cette connerie-là.
Je riais tellement de moi. J'ai fait de l'autodérision. Puis là, dans ce temps-là, les clubs vidéo existaient. J'ai dit, bah, viens-t'en, on va aller au club Vidéotron sans chercher hein, finalement un film.
Vois-tu, on a juste fait allusion à qu'est-ce qui va se passer quand on va devenir un petit peu plus vicieux au niveau monétaire sur les plateformes de ce monde-là, Netflix ouais. et tout ça. Des gens qui disent que ce ne sera pas le câble qui va revenir, ça va être vraiment le piratage.
Ouais.
Quelqu'un qui dit, effectivement, il y a des chaînes piratés, là, des torrents, des TVIP, des gens qui ont joué Fair Play toute leur vie et qui, là, vont se tourner vers le piratage parce que c'est ça qui va revenir en force puis ils vont être tannés, effectivement, de peut-être payer chacun des détails. Tu sais, on le comprend parce qu'il faut le financer, ce mm-hmm. divertissement-là. Mais est-ce que parfois, on en met un petit peu trop ses épaules du consommateur?
Tu as entièrement raison. Merci d'avoir interagi au 418-971-102. On se refait ça, des belles conversations de même. C'est le fun, ça.
Avec plaisir.
Puis ça me rappelle plein de bons souvenirs.
Là, jette pas tes vidéos de souvenirs et tes DVD. Non, c'est ça. Dans le temps, je sais pas si tu avais ça, mais moi, mon père avait une petite caméra à main.
Oui!
Puis, il filmait un peu des moments de famille. Puis tout. Oui! Le plus le fun, là. C'était les moments anodins.
Oui, c'est vrai, t'as raison.
C'était les moments qui n'avaient pas rapport dans la vie quotidienne, à la limite de ma mère qui fait son café. C'est ça qui est le plus fun
ben
à
regarder. Ben oui, puis là, t'as regardé ça. Ouais. C'est vrai que c'était cool, ça. Ah, le bon vieux temps. Yes, Pascal CV, je suis absent demain. T'es avec Mathias?
Oui, on va faire quand même On en jase, puis on va attendre ton retour dès lundi prochain.
Magnifique, je te souhaite un excellent week-end.
À toi
et
aussi.
Je te souhaite un beau vendredi avec Mathias. Puis t'es dans l'équipe du matin aussi, demain matin, avec Max et Marceau le matin. C'est l'équipe de Denis qui suit, avec Denis Véro et Audrey dans le retour de Gravel. Manquez pas la chronique de Judith Desmeules.
Ah oui, manquez pas.
Parce que ça va être... Elle va nous raconter une histoire invraisemblable.
C'est comme un délire judiciaire.
Oui, c'est ça, un délire judiciaire. Un homme qui aime beaucoup, mais beaucoup trop les voitures.
Oui, trop. Trop.
Yes. Salut, guys. On se parle lundi dans mon cas. Pascal est avec vous demain.